Non, ouais, je voulais juste finir avec tout ce qu'il y avait. Du coup, il y avait le transfert de support. Du coup, c'est un truc qu'on a commencé à créer. L'idée, c'est de créer en fait des œuvres en cadre RSK. Chaque artiste en fait réinterprète l'œuvre précédente. Et la première qui a été faite, c'est celle que j'ai faite, le cube en fait, qui est à l'entrée là, qui
marche. Et le livre.
Le livre qui devait tourner les pages.
Non,
le compresseur il a cramé.
Ah, ouais.
Mais après voilà, il y a trois artistes qui ont suivi. Il y a eu du coup.
Vivi, Diogo, ouais. Et après c'est Esteban.
Voilà.
Et Fabiana.
Donc on a commencé avec un cube, après ça a enchaîné avec plus une application de mécanique du coup de tourner les pages. Après c'est plus une vidéo installation, ouais, avec une structure de livre. Donc ça a tourné autour du livre. Et là, Esteban, ça va être plus du son. Donc voilà, en fait, il y a une transformation qui se fait.
Toujours à l'extérieur, non, c'est où ça? C'est l'entrée.
Ça, en fait, on le présente à la fin.
Oui, on va faire un expo en mai, en fait.
Alors, en mai, on va exposer tout le monde, en fait, soit chronologiquement, soit pas, on ne sait pas trop encore quelle forme ça va prendre. Mais en gros, on donne un mois à un artiste, donc si vous voulez participer après, ça suivra. C'est des gens qui sont déjà venus, donc on en disait. Et ils ont un mois, et en gros, ils présentent leur installation juste après une conférence. Ou alors, si c'est très long à expliquer, on peut prendre la journée entière pour en parler, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, il y a ça, il y a la radio qu'on commence à mettre en place. Mais c'est plutôt un endroit où on s'amuse, parce que du coup, c'est écouté que sur le site de l'enceinte des grands voisins. Il n'y a pas un but très artistique à faire, mais c'est juste peut-être. Ça pourrait être intéressant pour créer du lien avec les résidents, parce que du coup, je sais pas si tu sais, mais il y a des gens qui habitent ici.
Si, j'avais lu déjà.
Et on pensait déjà qu'ils puissent téléphoner à leur famille, par exemple, et enregistrer le son de leur ville ou de leur pays, et essayer d'avoir comme ça des matières sonores. Encore dans cette idée de collecte, en fait, de matières de données. Il y a quoi d'autre?
C'est des outils aussi qui ont présente à partir des bruits qu'ils font en fait.
Enregistrer le son du travail en fait, forcément, en fonction de chacun. En fait, c'est créer de la matière en fait en fonction de chaque domaine. Bon voilà, après la radio, qu'est-ce qu'on a fait comme d'autres.
Oui, des rencontres surtout, oui.
Une vingtaine déjà de rencontres.
Oui.
Bon voilà. Par la suite, on va monter le collectif et puis on va essayer de vraiment chercher des financements pour du coup commencer à financer les choses. Bon, je sais pas. Vous avez déjà vu des structures un peu comme ça, j'imagine,
Pas jusqu'à ce niveau-là. Je sais pas, il y avait quoi? Il y avait un Mandel ou il y a
un Mandel. Ouais.
Ouais. Que c'est au début, à mon avis.
Ils font ça avec des comment ça s'appelle? J'ai oublié leur.
Ils ont leur atelier des trucs du le CRAS.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Centre de ressources art sensitive, ça partait d'art sensitive. Il y avait Ars Manga à l'époque existait, où ils se renvoyaient aussi c'était une rare galerie à Paris qui faisait un peu du numérique. Ars Manga, la France.
Ouais, il y a les trucs les conférences digitales aussi là, qui, je sais pas comment ça s'appelle, digital, c'est pas ça ou... C'est plein de conférences qui sont en fait presque tous les bonnes fois par mois aussi, qui parlent de la question de l'art numérique.
Voilà, il y a le MAIF, la MAIF Social Club là, qui a ouvert il y a 3 mois, 4 mois, rue Turenne. Bah c'est la MAIF qui a acheté un lieu
pour MAIF,
les assureurs.
Il y avait Félicie, il y avait
moi j'en ai une qui arrive là, les cailloux là. Je l'ai fait la semaine prochaine, le vernissage sera le 20, je vous enverrai une news. Et c'est que c'est des cycles de 3 mois d'expo, et c'est que sur l'art numérique. Donc je pense qu'ils ils hébergent aussi en ce moment le festival Nemo.
Ouais.
Certaines rencontres, certaines projections, tu vois, je sens qu'ils prennent un peu la place entre la gaieté lyrique, qui est publique, et forme des images. Bon, eux, c'est privé, la Maïf, ils hébergent quand même des événements aussi maintenant. Cycle de conférences, d'ateliers, je pense qu'ils auront bientôt une bibliothèque. Tu peux rentrer et consulter des bouquins comme dans une bibliothèque, comme la gaieté lyrique en fait.
Ouais, parce qu'il va falloir qu'on pense, nous, après, comment on fait quand on va sortir de ce lieu, quand il disparaît ici, il va falloir qu'on trouve un lieu. Là, le principe d'avoir ce lieu, c'est cool.
Il y a des usines.
Tout l'espace,
peut-être. Ouais, c'est quoi? C'est un septembre. Vous avez combien de. Septembre?
Ouais.
Septembre là?
Ouais,
décembre.
Ah ouais.
Ils vont être seulement. Seulement.
C'est ce premier bâtiment d'ailleurs qui est détruit. Il y a vraiment.
Wow, ouais. C'est demain quoi.
Oui.
Tu peux pas trop te projeter.
Oui, non. On essaye de faire le maximum de choses en fait. Parce qu'on a la liberté de faire tout, proposer.
Il y a des usines vendeurs là, à Saint-Ouen aussi. Il y a un grand, grand bâtiment.
Mmh. Oui.
Ils ont fait un appel à résidence, un appel à atelier. Non, vous n'avez pas vu
Non.
Je crois que c'est ça qu'il faut, c'est sous forme des collectifs ou un lieu de résidence pour artistes. Ça ne coûte pas grand-chose.
Oui.
Ça va coûter 150, 200 euros le loyer par mois.
Oui.
Voilà, ça c'est pas mal. Là. Ouais, à Bervilliers, à Ivry, pareil. Il fait Dominique, c'est quoi son.
Quoi, l'EPSA ?
L'EPSA, c'est quoi ? C'est à Ivry, c'est ça ?
Ouais, c'est Ivry.
À Ivry, il y a des trucs. Ouais,
bon, on trouvera de toute façon. Mais c'est vrai qu'il nous faudra un local. Quoi.
Ouais.
Mais voilà, et pour finir, le site aussi, on veut mettre en place un espèce d'agenda pour tous les gens qui sont venus, tous les artistes qui sont venus présenter, mettre leurs actualités, qu'ils puissent avoir notre plateforme, comme tu dis, de diffusion de leurs actualités. Et en fait, continuer à les suivre, tu vois. Continuer
parce que la newsletter, en fait.
Ouais,
je pense que
c'est
sur Facebook,
c'est
voilà.
Ouais. Mais ouais, ça vient de sortir de Facebook à un moment. Quoi.
Ouais, je suis d'accord aussi.
c'est des grosses questions, mais bon.
Ouais, ça va revenir. On va déjà sur Facebook.
Ouais. Donc voilà, bon, je pense qu'on parlera après. Là, sur...
Sinon, tu peux aussi dire qu'Arcadie, ils sont mal en point là.
Arcadie,
tout ce qui est subventionné en spectacle vivant, art numérique, etc. Ils ont de moins en moins de fonds et c'est très critique là en fait. Ceux qui financent pas mal le Félicie, ceux qui financent quand même beaucoup de choses de l'art numérique, ils sont raides en fait là. Le gouvernement, le ministère.
Leur
coupe complètement de subventions en fait.
Et toi c'est l'art numérique tu vois.
Bah, Arcadie c'est les seuls qui. Avec c'est quoi l'autre collectif, l'autre. Toujours sur les newsletters tout le temps, là, associé à Arcadie aussi un peu, qui fait pas mal de. Merde. C'est la production d'œuvres numériques en France. J'ai plus de nom. Je vais chercher ça. Merde, je vais faire une newsletter.
Je sais pas si vous voulez ajouter un truc sur Matière Revue du coup. Peut-être toi te présenter, j'ai essayé de te présenter tout à l'heure, mais tu ne crois pas que je vais le dire.
Oui, bon, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça un peu. On avait un peu déjà un projet des revues. Avant de venir ici, on avait un format que c'était ça, transfert de support aussi, créer un musée virtuel pour présenter les œuvres qui sont créées à partir de ces contraintes-là, de faire à partir de l'autre et d'enchaîner en fait.
Ah, ouais.
Oui. Mais à la fin, quand on a trouvé cet espace, on a commencé plutôt à partir des rencontres. Et c'est ça l'objectif, c'est un peu d'écouter les gens et changer un peu sur le travail.
Oui, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, c'est pas nos amis qui viennent, mais les écouter pendant 2 heures, c'est carrément autre chose que de savoir ce qu'ils font.
En fait. Exactement. C'est ça.
En fait, c'était juste pour Yannou Niamor que je connais depuis toujours, qui est venu et qui a présenté son édition que je connais depuis déjà 3 ans, mais ça n'a rien à voir avec.
C'est
maintenant,
bien
je sais de quoi, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il fait, ça change un peu. Et puis, les questions, du coup, sont différentes que quand tu es autour d'un verre. Le format qui mais s'il y avait
digital,
aussi
Digital Arty.
Ah oui.
Ah, Digital Arty, ouais.
Pardon, parce que moi je t'ai pas compris.
Non, il y avait aussi la traduction spontanée qu'on avait pensé à faire.
Ah oui, ça, aussi. Ouais. Des traductions de textes, tu
vois. Oui. Traduction de. Non, je pensais. Ouais, la première fois on nous disait de traduire les textes en fait en spontané. On a commencé à la radio à lire des textes aussi dans lesquels on ne connaît pas la langue. Un travail comme ça, je pense que. Je sais pas pourquoi on est parti sur cette idée-là, peut-être parce que vous avez des origines brésiliennes, je sais pas, mais c'est juste que c'est. Il y en a des gens qui travaillent, et on a des amis à nous aussi qui travaillent dans les développements les développements des softwares pour faire les traductions en fait. Donc on a beaucoup parlé de ça entre nous, et c'est vrai que ce travail de traduction. On a aussi un ami aussi qui fait des lectures de textes dans la langue originale, du coup il fait des conférences aussi comme ça le soir. Et les gens viennent lire un texte qu'ils choisissent, un poème, ou qu'ils ont écrit ou pas. Et du coup, ils ont plein de connaissances dans différentes langues. Il y a du chinois, du japonais, il y a du brésilien, de l'espagnol, quoi. Il y avait un peu de tout quand j'y suis allé. Et donc voilà, c'est pour ça que ça aussi, c'est un truc qu'on aimerait développer aussi dans différents langages et traductions, et choses comme ça. Quoi. Mais... Ouais. toi, tu faisais la thèse, ce que j'expliquais tout à l'heure sur la thèse sur le,
oui.
sur l'histoire oui. de l'art.
Hein, oui, c'est ça. En fait, c'est en philosophie, c'est en esthétique. Et bon, c'est un peu proche des quelques questions qu'on aborde ici. Mais la question du médium, mais en tant que support, en fait. Et bon, c'est un peu ça.
Et c'est où? Tu l'as fait où, cette
thèse? À Paris 8.
Tu as fini, ouais, c'est ça?
Oui. Non, non,
ah,
je l'ai fini. J'espère. Oui.
C'est vrai qu'elle a présenté, c'est quand? Il y a un mois que tu as présenté, présenté ça ici, là?
Et non, en fait, c'était pas ma thèse, c'était mon master.
C'est le master?
Ah, ouais, la mémoire, ouais. Je faisais le cinéma.
Et c'est qui ton directeur de thèse?
Eric Aliès. Aliès. Oui. Il est en philo.
C'est en philo, c'est ça.
Oui, oui. Et en fait, il a étudié avec Jules Deleuze. Il parle beaucoup, oui.
Tu vas regarder le sacre cette année?
Non, non, je suis
pas
en fait.
Ah bon? Je croyais que tu avais essayé.
Vous voulez un peu de café?
Moi, ça va.
Moi, c'est merci.
Et du coup, tu es aussi brésilien.
J'ai pas de thèse.
Pas de thèse.
Ah, mon CV.
Ouais, vite fait, juste pour qu'on sache tout ça, tu vois.
Oui, je fais un master à Paris, mon cinéma, mais à Paris 3. Et puis, je fais deux films en Brésil, mais avec des productions françaises. Et je participais. Il y avait une rencontre médium et mémoire ici. Du coup, je parlais un peu du film, le dernier film que j'ai fait l'année dernière. Avec deux autres artistes, c'était un peu pour parler comment activer la mémoire à travers les médias, ou soit des images, des photos, des films, etc. Et comment construire ça. Pas de narration forcément, mais bon, comment transposer tout ça. Et après, bah, j'ai participé à au transfert de support aussi. Mais surtout dans cette même idée de mémoire et de littérature, mémoire, comment changer les supports aussi. Soit le film, soit l'âge, c'est une installation vraiment. Je travaille avec des livres, là, c'est la première fois que
c'est
je fais
quoi,
ça.
Livres, du coup
En fait, c'est quand même... Je sais pas si tu peux expliquer, je sais pas si vous avez le temps.
C'est le titre du livre, c'est un peu ce que c'est.
Non, en fait, c'est comment je prends des livres et leur objectif de base, c'est la littérature, c'est la lecture. Du coup, dans des situations différentes, où ils ne sont pas, ils ont plus... on ne peut pas les manipuler, ils deviennent autre chose. Et du coup, je travaille avec. Je travaille avec cette idée des monuments et documents aussi, la création d'un monument à partir d'un document historique, de livres même, pour récupérer la mémoire. Du coup, il y a plusieurs façons de mettre les livres ensemble, soit comme ça, soit les livres qui sont vraiment un bloc l'autre, soit vraiment un tas de livres très très lourds que tu ne peux pas manipuler. Et on va exposer ça en mail ici. Et on travaille avec la radio ici ensemble.
Donc c'est parce que la sculpture en fait.
Comment
c'est parce que la sculpture ou l'installation.
Des livres et des liens sont des supports des projections aussi. Parce qu'il y a la projection à travers.
C'est
vrai que l'ombre de la sculpture faisait une espèce de d'architecture un peu du ville.
Mais tu vois, Michel Robner, un artiste qui fait des projections de caractères, de petits personnages sur des tablettes, comme si c'était la pierre de Rosette. Je sais pas, peut-être que tu peux. T'as pas internet, c'est ça?
Je peux avoir internet.
Comment il s'appelle? Michel.
Michel. C'est un artiste israélien. Michel Rovner. C'était au jeu de paume. Moi j'en ai vu beaucoup au jeu de paume, parce qu'on est comme si c'est une femme.
C'est une femme?
Oui, c'est une femme. Michel. Et en fait, tu sais, c'est. Attends, faut que je trouve un exemple. Tu vois, ça avait des projections sur des pierres, mais c'est vraiment, ça rappelle vraiment le début de l'écriture.
Ouais.
Et c'est aussi sur des livres. je descends, tu vois, ça paraît, c'était au Louvre. Mmh. Et par moments, c'est des petits caractères, tu vois, t'as l'impression que c'est de la calligraphie ou de la typographie, ouais. Mais c'est des personnages. Alors, je vois juste, voilà, tu vois, ça peut être un peu comme des tablettes, mmh. Tu vois, comme ça, t'as l'impression que c'est des caractères qu'on a gravés, mais c'est projeté très délicatement, tu vois pas, et ça bouge légèrement.
Ah, trop bien.
Ouais, et donc, notamment dans des livres aussi, tu vois, des pages ouvertes, et t'as des petits caractères. Ouais. T'as l'impression que c'est des caractères écrits, mais en fait, c'est des petites animations, des petits personnages.
On a vu ça à Digital Weeks là, à ton expo, là, où en fait, il y a plusieurs personnes.
La variation, t'as pas vu ?
La variation, il y avait un livre ouvert sur une tablette, une projection en fait qui est faite sur le livre qui est blanc.
Les livres, en fait, c'était juste une surface qui bougeait pas, qui était comme ça en forme de livre, et c'était les pages digitales qui bougeaient, non ?
Quand tu tournais la page, en fait, ça déclenchait un capteur de...
Ah oui, c'était un vrai livre, voilà.
Et ça changeait la page.
Et donc t'as allé...
Tout était projeté, quoi.
Et comment ?
C'est un livre blanc, en fait, et les images sur le livre sont projetées, en fait. Et du coup, tu tournes les pages, il y a la déformation et tout qui se fait.
En fait, dès que tu touches, il y a un capteur en fait, qui active le passage d'une page à l'autre, dans l'ordre.
Oui.
Mais après, si tu passes très vite, il y a des trucs qui buguaient, quoi. Mm-hmm. Voilà,
oui.
Après, moi, je parle de Michel Robner parce que la façon qu'elle a de présenter le livre, tu peux pas le toucher derrière, c'est dans une vitrine, comme si tu arrivais vraiment dans un musée. Et la pierre ou la tablette ou la tablette en pierre ou le livre sont protégés par une vitre. Donc tu vois pas le vidéoprojecteur, c'est vraiment comme si le livre était pété. Hein. Il y a un côté précieux, tu vois. Comme si t'avais une relique.
Ah, ça c'est...
Donc c'est vrai qu'il faut
derrière vitrine, tu vois.
Pour l'exposition, il faut qu'on regarde ça avant de.
Parce que c'est un peu une thématique qui est venue à partir des coups que Vincent a fait. Parce qu'il y a ces jeux-là, dans un cube, ça donne un peu. Les statues, un peu des choses rares en fait.
Ouais,
que tu ne peux pas toucher.
Pas toucher, exactement.
Et en même temps, tu peux toucher parce que tu as quand même les senseurs là, tu peux produire quelque chose sur les livres. Mais à la fin, les compresseurs, il est tellement violent qu'il arrive. Oui, exactement, c'est ça.
C'est sympa aussi.
Non, mais c'est ça, mais
c'est ça
la contradiction qu'on a. Qui est venu à partir de l'ordre des Vincent.
Il est détruit, quoi, après.
Oui, exact, mais c'est ça.
Le mécanisme détruit l'homme.
Oui, mais en même temps, il y a cette vitrine, c'est comme si c'était pour les préserver, en fait. C'est
une accélération de destruction. Qui m'a parlé hier de vieillir un papier avec des criquets ? C'est toi ? Je ne savais pas ce truc, vous saviez ça ?
Non, mais t'as plein
de techniques à venir.
Tu crois avec du coca ou je sais pas quoi.
Un tiroir, une feuille de papier et des criquets, et quelques jours après, la feuille a une texture d'un vieux papier.
Et les criquets, ils ont mangé quoi ?
Je sais pas ce qu'ils font, c'est peut-être
la terre, en fait, pareil.
Peut-être leur.
Tu mets la terre, pareil, ça se.
C'est organique, de toute façon, c'est organique. Ça dépend quel papier tu me viens maintenant.
Oui.
Non, c'est organique.
Bon voilà quoi, et du coup aujourd'hui, comme je vous disais, si vous pouvez présenter à votre cursus, parce que je le présenterai moins bien qu'à votre place, quoi, et qu'on puisse voir, qu'on puisse expérimenter un peu deux, trois objets en réalité augmentée, pour qu'on puisse voir avec Carolina les textes, qu'est-ce qu'on peut. Cette thématique là sur le multimédia, comment on peut la faire évoluer, parce qu'on a déjà fait beaucoup de conférences, on aurait sorti un peu de ça, et voir ce qui se fait aujourd'hui, tout ça quoi.
Bon, moi je pensais montrer tous les élèves aussi, tu vois ce qu'on a fait là.
C'est trop bien.
Ouais, mais c'est vraiment un prototype en fait. Ça a été tellement long en termes d'organisation. Et puis tu vois, c'est la structure école publique dans une métropole. Enfin, tu vois, on passait par des canaux, avoir un compte Apple Store, un compte Google. Qui paye ? On n'a pas de carte bancaire en fait. C'est pas comme le Claire où il y a une carte bancaire. Avoir une carte bancaire dans une école publique, enfin, c'est tellement compliqué.
Pourquoi vous avez fait quoi là ?
En fait, on est passé par mon compte à moi. J'ai dû.
Vous avez fait quoi
On a fait.
Le projet des fins d'année quoi.
Non, c'était. Il y avait une exposition sur le livre d'artiste dans un lieu qui s'appelle le Safran à Amiens. Et la commissaire d'expo en fait a demandé à mes élèves est-ce qu'ils peuvent travailler sur les affiches qui annoncent l'exposition. J'ai dit moi on travaille sur les affiches à condition que les affiches soient en réalité augmentées. Donc elle a dit ok, je vais expliquer comment ça fonctionnait, elle a dit ok. Et donc on a produit 38 affiches, avec 38 contenus augmentés, sur le thème des livres d'artistes. Et elle en a sélectionné 6, donc dans la ville d'Amiens, enfin je pourrais montrer après les vidéos, mais dans la ville d'Amiens, il y a dans les deux cours, Et dans les colonnes Maurice qui tournaient, il y avait des affiches des élèves.
Colonnes Maurice, c'est ça.
Ouais. Et donc, tu avais l'application qui était gratuite et téléchargeable. Tu pouvais récupérer via un code sur l'affiche. Et tu pouvais regarder après les affiches en augmenté. Et on en a mis, celles qui n'ont pas gagné, on les a mis dans l'exposition. Donc, les gens avaient une tablette ou deux et pouvaient regarder les 32 affiches pas sélectionnées, mais qui parlaient aussi du livre d'artiste.
Et tu avais une animation particulière quand tu voyais les 32 d'un coup ou un truc
comme ça. Ah non, ça marchait plus. Non, c'était déjà compliqué. Mettre en route. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ok.
Après, c'était nous, ce que j'avais mis en avant aussi pour cette expo, c'est des livres qui sont, comme je disais, encore sous vitrine. Certains sont protégés parce que c'est des livres qui sont précieux, tirage un peu limité. Et c'était les élèves ont le droit de les toucher avec des gants, etc. Donc c'était aussi pour rentrer dans le livre. Là, tu vois l'affiche. C'était pour aussi un peu donner envie au public de. Il y a des systèmes d'ouverture. Il y a des livres qui convoquent des choses. Donc c'était animé tout ça aussi. C'était pas juste une affiche standard de livre d'artiste, tu touches pas, ça bouge pas, c'est pas vivant. Mm-hmm. Donc on a voilà, je vous montrerai après les affiches qu'on a faites et le contenu. Mais à l'idéal, moi j'aurais bien aimé que, je sais pas, si c'est une expression qui dure longtemps, peut-être que tu re-regardes l'affiche, les dates changent, le contenu change, t'as le temps de mettre à jour en fait. Ce qui est compliqué après, c'est les plateformes. Apple pose beaucoup de soucis par exemple, tout le temps. Mm-hmm. Tout le temps.
Ben là, Augmente, on en parlera aussi tout à l'heure, un peu en détail de ce qu'on a fait pour plateforme. C'était aussi Augmente, là, mais c'est l'application, les installations qu'on a faites en fait dans la rue pour rappeler. Donc,
Le parcours.
Une coïncidence.
Mais du coup, là encore, je suis retourné sur l'application et ils ne m'ont pas laissé l'autorisation de reposter en fait un nouveau tracker. Et j'ai envoyé un message en disant qu'est-ce qui se passe. Et ils m'ont répondu comme quoi l'application était en réparation, je sais pas quoi. J'ai essayé de remettre un tracker. Et là maintenant il y a écrit ce tracker existe déjà. Alors que j'ai mis l'image nouvelle, tu vois. Donc ils sont, je sais pas, ils ont verrouillé le truc. Bon, c'est normal.
Après.
On compte avec eux, j'en sais rien. Mais cette histoire de compte, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a besoin d'applications. Qui sont compliqués à développer, j'ai l'impression, pour faire la réalité augmentée, et qu'on se sert du coup des applications qui sont déjà développées, qui existent déjà, mais qui sont gratuites, mais temporairement, quoi. Qui sont très vite obsolètes.
Ouais, après, c'était un peu présomptueux de vouloir faire une expression d'une année en numérique.
C'est sûr.
Parce que les choses. Enfin, moi, je trouve que les choses évoluent tellement vite, l'autorisation, comme tu dis, etc. Sur le numérique, non, tu peux pas faire une expo d'une année. Enfin, ça doit rester éphémère en fait.
Ouais. Tu veux commencer à présenter le programme pour moi,
oui,
si tu dois partir ou un.
Hommage, c'est pas ça. L. Non, celui-là, l'autre en dessous, je crois.
Ouais. Et du coup, attends, je vais revenir en arrière. J'ai plein d'images, mais bon, je vais sauter les images en fonction de ce qu'on se dit. Moi, je viens d'un parcours un peu les arts déco, les beaux-arts, donc c'est plutôt beaux-arts. Donc là, il faut quand même mettre tout un contexte, l'idée à quoi. 13 ans, 14 ans quand même. Pareil. Hein. Donc du coup, à l'époque, on parlait pas d'art numérique en fait.
Oui.
On parlait du multimédia.
Ouais, oui.
Et à l'époque, en fait, on n'avait pas d'art réalité augmentée, on avait plutôt des animations et on utilisait Directeur ou Flash.
Et on faisait du CD-ROM.
Un CD-ROM. Donc du coup, c'est ça. Parce qu'Internet, en fait, on n'avait même pas de téléphone portable sur nous, qui avait Internet tout le temps. Même, je me rappelle, à la maison, il fallait quand même. Il y avait encore le routeur, là, le truc qui faisait
des Le modem, il n'y avait pas.
Le modem, voilà.
C'était limité.
Et je crois que le premier mail que j'ai eu, c'était Caramel.
Ah ouais, c'est ça, voilà.
Et du coup, en fait, j'ai envie de commencer par ce projet-là, en fait. Parce que c'est un projet que j'ai fait en 2006. Et c'était vraiment un des premiers projets que je commençais à faire, à m'intéresser au multimédia. C'est comment sur une plateforme, parce que c'est une œuvre, en fait, c'était un CD-ROM. Mm-hmm. Et c'est un projet qui est sur Internet, et qu'à chaque fois qu'il est montré, en fait, je dois envoyer un CD-ROM. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, il y a 15 jours, parce que ce projet a été sélectionné par un musée en ligne, qui s'appelle The Hardest Museum,
Et donc ils l'ont sélectionné pour l'avoir sur la base de données. Et on s'est rendu compte en envoyant le fichier qu'il est obsolète. En fait, il ne fonctionne pas sur plein de plateformes.
Okay.
Donc sur Safari, Internet Explorer, c'est mais super compliqué.
Au début, c'était consultable sur l'Internet.
Et c'est, il est toujours sur mon site Internet. Ouais. Et avec mon ordi, cassé à Google, moi, je l'ai plugin qu'il faut. Mais si une personne lambda va l'accéder, en fait, va être face à les problèmes du bon plugin. S'il y a le QuickTime qu'il faut pour lire... Donc c'est vraiment on n'a pas internet.
Je me suis fait un.
Attends, je te le mets parce que je suis.
Et du coup je pourrais vous montrer parce que c'est intéressant de voir là comment à l'époque avec les moyens du bord déjà je commençais à m'intéresser à l'interaction à l'interactivité de la personne.
Mettre la wifi. Ah oui. Ça devrait marcher en plein temps.
Ça s'appelle.
Ouais. Non, je te file le mien. Hein. C'est ce que t'as repéré là, le Sony Xperia.
Ah, mais. J'ai 20 gigas de mien.
Bah, moi aussi, ouais, c'est obligé, hein, pour travailler.
J'ai reçu ça il y a 20 ans, j'étais trop content. Ils vont changer votre portefeuille.
Ouais, tu peux plus faire sans.
Non, mais ici, je me suis fait avoir déjà sur Internet. C'est premier jour où je suis venu, je lance, il y avait Dropbox derrière. Puis c'était...
Ah oui, bah oui, mise à jour. Oui.
T'as peut-être ton forfait direct.
Ouais, bon, après, peut-être prendre le tien.
Vas-y, tu peux être le Xperia, je sais pas quoi.
Juste l'adresse.
Et tu tapes Donald Abbas pour accrocher. D-O-N-A-L-D-A-B-A-D.
Tu m'as perturbé, hein. Tu l'as dit.
Attends, faut que tu lui fasses tout.
C'est multimédia.
Sur l'étiquette du routeur.
Bah. Non mais attends.
C'est toi c'est moi Z5 Compact.
Ah ben moi j'ai pas ça. Hein.
Ça c'est toi là.
Je peux te connecter à mon truc. Ouais.
Mais là c'est marqué connecté quoi.
C'est pas wifi, tu connectes. C'est pas...
J'ai internet, hein. Je vais me mettre.
Ouais mais attends, on va y arriver là.
Non, t'as pas le sens.
C'est ça.
Allez,
tu peux gagner.
Ah, de bon compliment.
Merci.
Attends, il y a un truc. Est-ce que là c'est bon, c'est la bonne adresse. Ah, c'est bon. On va voir si ça marche en fait avec ton ordi.
Non, ça marche. Ok, bon, ben.
Sinon, j'ai les câbles, je vais mettre le mien.
Ouais, mais je crois, mais moi aussi j'ai mis le mien en fait, mais je sais pas, j'ai peut-être plus.
Ah, ça y est. Ah, bah tu vois.
Il faut quoi, un plugin.
Il faut, voilà. Donc, on est face à ce genre de. Autorisé, tu vois.
Ouais, je crois que c'est juste ça, j'ai ça sur ça.
Et c'est intéressant quand tu reviens vers les
technologies. Oui, mais du coup, c'est une œuvre, tu vois, c'est une œuvre que j'avais pas regardée au moins depuis 10 ans.
Ouais.
Et quand le commissaire m'a appelé pour me dire, c'est cette œuvre qu'on veut. Ça m'a permis de revoir des choses. Donc c'était vraiment, c'est des trucs très simples et très ludiques. Et vous allez me dire, c'est con, c'est voilà, c'est. Il faut le mettre dans le contexte d'il y a 10 ans. C'est que voilà, regarde, il y a plein de trucs qui se passent.
C'est vraiment,
voilà, c'est la souris. J'avais créé plein d'interactivité en fait avec les trucs de base comme la photo. Il y avait de la photo, il y avait de la vidéo. Il faut chercher en fait plein de choses qui se passent dans l'image.
Ah. Ouais.
Bon voilà.
C'est des photos ou des dessins?
Ça, c'est des photos, ouais. Donc après, il faut passer du temps, quoi, vraiment, à explorer. Donc c'était une œuvre qui était montrée dans des musées avec juste une souris, qui est un écran. Tu vois, là, c'est rigolo, quoi. C'est essayer de reconstituer vraiment... Donc ça, en 2006, c'était genre, waouh, les gens disaient, génial.
Oui.
Là, aujourd'hui, on fait des trucs encore différents. Mais... Attends, c'est celle-là.
Oh, attends, tu vois, c'est par rapport à l'image, au pixel, quoi, était dans le placement du pixel. Mm-hmm. Attends, il y en a un qui est sympa par rapport au son, c'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là, on peut attendre encore. Ça prend du temps. Non. Là, il y a plein de vidéos, mais bon, c'est pas ça. Voilà, celui-là. Donc c'était des sons mais qui étaient liés à chaque
spécialisation.
Ouais.
C'est des sons
qui étaient enregistrés sur place, ouais, dans les rues et tout ça. Et donc ça aujourd'hui évidemment tu peux faire ça différemment et il faut pas tu vois, plus facilement qu'avec Flash et tout ça. Attends, il y a ça à l'époque. Ouais, ça
c'est un max.
Je me suis mis à la donate.
Ouais, c'est ça. C'était une forme d'hommage déjà.
Ouais, ouais. En 2006. Ah, et là, celui-là, tu vois, je trouve rarement des ordinateurs qui laissent fonctionner ça. Mm-hmm. C'était. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui sur le téléphone portable pour prendre des photos en 360? Là, c'était une application qui me permettait. Bah,
ah ouais, mais ça c'est
vieux. Ouais, aujourd'hui, c'est QuickTime.
C'était déjà le début de la réalité virtuelle, ouais. Où tu avais un espèce de mapping, comme dans une sphère. Tu prenais des photos et tu étais au centre de la sphère et tu regardais un paysage, quoi.
Et imagine, tu as la photo que tu as prise, mais du coup, le logiciel te permet d'aller vers les hauts, vers les bas.
Et d'aller chercher dans l'image aussi.
Il va un peu presque étirer l'image, donc c'est assez beau l'effet, quoi, sur ça. Donc je pense que voilà,
c'est
à partir
de virtual reality en fait.
Ouais, ouais,
c'est MVR. Ce que tu fais mal. Enfin,
ouais, ce qu'on fait tous maintenant. Mais...
mais à l'époque c'était avec le. Voilà.
C'est vrai, dans les écoles on avait ce truc là.
Ouais. Donc je pense que là, dans mon travail, vous allez voir, il y a toujours un intérêt pour la partie mécanique, le procédé physique de pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui avec les digitales, en fait, ça a changé le concept. C'est tout. C'est que les digitales, l'art numérique aujourd'hui permet de faire des choses différemment. Et voilà. Et raconter une histoire d'une manière différente.
Mais quand même, je me posais la question, mais tu te trouves en face de la question de l'obsolescence, non, de la technique que tu utilises, non?
Oui, même mais à l'époque, c'était pas de l'obsolescence, c'était vraiment.
Non, mais dans le sens, quand tu vois après 5 ans, après.
Oui,
après,
oui. Ah oui, tout à fait. Mais là, en fait, là, bon, on voit mieux là, je pense. Excuse-moi, c'est pas ça. Et du coup, là, c'était mon intérêt pour la machine, l'ordinateur. Là, je ramène les choses quand même pareil, c'est en 2000, c'est à 10 ans. Mm-hmm. Donc, on n'avait pas accès aux nouvelles technologies de la manière qu'on les a aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a eu un intérêt pour le pixel, pour l'image digitale. Donc, tu as toujours un intérêt pour la photo.
Ouais.
Et donc, je commençais à comprendre. J'étais à Sydney pendant 3 mois. Résidence, et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur le pixel.
Oui.
Et j'avais peint cette image, en fait, il y a à peu près, je crois que c'était 35 000 pixels que j'ai peint à la main. Parce que je voulais vraiment le peindre, le côté physique de l'image, et à partir de là, j'avais créé cette relation à l'œuvre. Ou pour pouvoir lire cette œuvre, en fait, c'était une œuvre qui faisait 4 mètres par 3.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Il fallait être très loin pour comprendre ou vraiment utiliser un téléphone portable. Et là, à l'époque, on avait des petits téléphones à clapper qui commençaient avec des caméras pourries, quoi.
Ah ouais. Mmh.
Mais qui donnaient une très bonne résolution des pixels, parce que du coup, on voyait l'image telle qu'elle, quoi. Mmh. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler ça, qui m'a aidé. Là, il y a une série de pleines images là, qui sont là, avec les pixels. Et l'image digitale, voilà, j'ai commencé à travailler... Donc l'image qui était dans le lieu, il y avait l'image de Google Earth. À l'époque, c'était pas même pas Google Earth, c'était sur Internet, il fallait aller chercher des images satellites. Donc je commençais à faire tout un travail sur l'espace et le côté urbain, qui m'ont après amené à un travail, on va dire, un peu plastique, artistique. C'était sur la carte, mais là on voit... Je vais commencer plutôt par là, ça va être plus simple. Il est... Ah mais je l'ai peut-être pas là. Bon, je ne l'ai pas mis. Et en fait, c'était cette œuvre-là qui était à la base, en fait, elle était inspirée d'une œuvre qu'on pouvait voir à travers un téléphone portable, avec des codes QR. Donc les codes QR étaient connectés, il y avait des codes QR qui étaient connectés à des webcams dans la ville, donc qui nous donnaient un côté réel, en fait, de ce qui s'est passé. Là, on ne voit pas très bien la photo. cette photo-là, c'était pas celle-là, mais c'était l'œuvre précédente. Mais ici, en fait, je suis passé du pixel à aux couches RGB de l'image digitale. Donc comment ça a toujours été vraiment l'envie de comprendre l'image, comment elle fonctionne et comment elle est comprise par rapport au médium qu'on utilise. Donc là, c'est une installation qui était quand même assez grande. Je travaille toujours dans un grand format, en fait. Ça, c'était pareil. Ça, c'était, je crois que c'était 3 par 2. 3 mètres par 2.
J'ai juste pas capté le truc, le code QR et les caméras.
Ça, en fait, c'est pas celle-ci, mais l'œuvre précédente, en fait, c'était une œuvre qui était installée en 3 calques, donc RGB. Et j'avais caché des codes QR. Donc à chaque fois quand tu passais ton téléphone, ça activait un code. Et donc soit tu avais du son, qui était pareil enregistré à l'endroit, ou j'avais chopé des webcams en fait, qui sont accessibles sur Internet. Donc du coup j'avais mis le lien. Et du coup quand tu t'es connecté, tu avais accès à la webcam qui était. Et l'image était la Tour Eiffel en fait. Du bas, on voyait pas, juste on voyait les structures du bas. Donc les gens en fait comprenaient que c'était la Tour Eiffel parce qu'il y avait les bateaux-mouches qui passaient. Donc je donnais vraiment des indices aux gens, quoi. Donc il y a toujours le côté ludique, essayer d'interaction avec les œuvres. Donc j'ai amené ça un peu plus loin là, parce que là du coup j'avais imprimé sur du plexiglas des couches, donc là on le voit bien RGB. Et à partir de là, c'était une œuvre monumentale, quoi. C'était vraiment assez. Et là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment pouvoir aller devant, derrière l'image. Des choses que un ordinateur ou l'image classique te permet pas. T'as une image et deux dimensions, quoi. Donc j'essaye d'essayer de comprendre cette composition-là. Qu'après, dans mon travail d'aujourd'hui, on voit encore les mêmes intérêts pour coder les images et les décoder. Là, c'était une œuvre c'était une commande publique en fait de Bouillon, un festival d'art numérique. Tu as participé ?
En Bretagne, oui.
Et en 2012, et du coup, en fait, c'était sur la thématique, c'était citoyenneté.
Parce que ça s'appelle
le
blanc rouge.
Oui, et donc du coup, ils m'ont fait cette commande. Donc j'ai dit, écoutez, je vous propose la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc dans les 30 articles, dans cette langue, donc j'ai enregistré avec plein de gens que j'ai rencontrés les articles, donc avec des gens qui parlaient un portugais, japonais, et là j'avais créé un code QR géant, et il y avait une fenêtre là, on pouvait flasher le code, et on avait la déclaration universelle en français avec les 27 articles, mais dès que tu étais sur le code, ça s'est activé, et donc ça a créé une cacophonie en interne toujours, je pense. Et là c'était intéressant, parce que du coup en fait c'était vraiment le côté quand t'es interactive, les gens ils veulent tous faire en même temps, donc là il fallait qu'ils comprennent chacun, qu'il fallait attendre à l'extérieur et laisser une personne activer les choses. C'est comme la société en fait, quand tu vois tout le monde parle en même temps, on s'entend pas. Donc là c'était vraiment il y a du son, ouais.
J'ai pas branché les enceintes, mais si tu veux plus de son. Ouais.
Là, c'est pas ça que je t'ai mis en fait. Ça passe là-haut. Faut que tu mettes le. Faut que tu dans le haut-parleur, c'est normal. Non, pas là, mais sur le vidéo proche.
Ouais, mais je crois qu'il est pourri le son sur le vidéo proche. Je peux pas juste le.
Il est changé.
Faut aller sur setting.
Oh, sinon, de brancher juste le vidéoprojecteur.
Bah non, pour moi, c'est le HDMI. Ouais, c'est le son et l'image qui passent ensemble.
Non, mais là, on le regarde là. Tu veux dire. Ah. On débranche juste le HDMI.
Non, mais attends, normalement, c'est simple. Normalement, j'ai juste à cliquer là. Mais ça s'affiche pas. Il est pourri, mon ordi.
Voilà. Bah, arrête, il y a plus de l'un comme moi. Gauche.
Donc, bref, la montrer, il y a toujours cette interactivité avec le public pour essayer de comprendre la mécanique de l'œuvre. Donc c'est important en fait.
Je peux prendre mon téléphone là-bas.
Pas très gros ?
Bah non, je sais pas, on m'a pris ça.
C'est pareil. C'est pas
oui.
Ah
oui,
attends. Voilà. Donc ce qui était intéressant, cette œuvre en fait, le vernissage était avant. C'était il y a 5 ans en fait, avant les élections présidentielles, avant le premier tour. Et du coup, les gens en fait votaient là aussi.
Donc il y avait des. Tu vois, les gens pouvaient voter, ouais.
Ah oui.
C'était le jour des élections.
Ouais. C'était. Le vernissage était le jour le vendredi et les élections étaient dimanche. Et du coup.
Non,
c'était pas un vrai lieu, c'était un centre d'art. Si. Mais c'était lié, en fait, disons que c'était pile au moment où ça tombait, pile le vernissage, où c'était assez, assez bien. Et du coup, j'avais créé des isoloirs, là, pour que les gens votent. Et du coup, le premier, il y avait, t'avais un micro avec un bouton, et les gens, en fait, laissaient des messages avec leur voix, qui étaient après traités par un ordinateur, qui les transformait après en code tout petit, qu'on imprimait, en fait. Le deuxième, c'était un mur long, donc les gens, en fait, écrivaient des choses. Et le troisième, c'était vraiment une boîte en plexiglas où les gens pouvaient voter. Et donc après, moi, je prenais tous les codes, en fait, tous les codes, tous les votes, j'ai tapé à l'ordinateur et j'ai créé les codes. Donc l'œuvre, elle était en deux parties, parce qu'il y avait la partie où les gens interagissaient avec l'œuvre, et tu avais une partie qui était en train de se faire pendant que les gens étaient là, et les gens partaient avec des codes qui était imprimé. Donc il y a des gens qui les portaient sur la tête, et après ils s'amusaient à s'éclasher eux-mêmes.
Oui, ok.
Donc il y a toute cette histoire de comment l'œuvre elle se désintègre, en fait, elle s'est fait sur place et les gens partaient avec l'œuvre. Et comment à la fois les gens portaient aussi un message de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc il y a comment l'œuvre a quand même un cycle de vie, et comment à la fois l'œuvre ben, elle existe que là, parce que cette œuvre, je n'ai jamais montré cette œuvre. Ah oui, je l'ai montré une fois, à Tremblay, quoi. Mais je n'ai pas montré tout le dispositif, quoi. J'ai montré juste les codes au sol.
Non, mais l'isoloir est pas mal quand même.
Ah, ben ça, tu vois, et les gens, c'est qu'il y avait des gens. Il y avait des gens qui s'est rendu compte qu'à l'époque, il y avait des gens qui marquaient Marine Le Pen, ou je ne sais pas quoi, des trucs, ou Sarkozy. Bon. Et c'était marqué sur le code, donc imprimé des 3 par 3. Donc quand les gens le portaient, et dès que les gens étaient flashés, ils étaient il déchirait le code, hein, parce qu'il n'était pas content de porter le message de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'aimais bien ça, que l'œuvre en fait elle finissait pas là, l'œuvre continuait, quoi.
Non mais je regarde déjà ça, je regarde Klaus Rufus en conférence.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh là là, mais il est prouvé sur l'ordinateur. Ouais, t'as vu? Non mais là il a cramé.
Il a cramé.
Tu sais, c'est chelou ça, hein. Je crois que c'est mon disque dur qui, d'ailleurs, qui est.
Mais c'est bizarre parce que là
c'est
ça.
Un peu tué.
Ouais,
dis donc. Ouais, non, mais il a cramé.
Qu'est-ce qui se passe si on flash le code?
Il faut qu'il se redémarre, quoi. Non, mais il faut que je change vraiment le disque dur de ça.
Désolé, c'est une question un peu bête, mais le code, il a été créé par quelqu'un, il a tout.
C'est une application qui transforme.
Derrière, c'est ouvert, on peut accéder.
Ah oui, ça c'est open source. La plupart des logiciels avec qui je travaille, c'est open source. Ils sont tous open source. Et donc, du coup, c'est des codes QR. Donc là, c'était l'ordinateur, en fait, qui était. On avait travaillé avec un ingénieur. Et du coup, tous les codes étaient codifiés, puis après imprimés. Donc il y avait vraiment une chaîne de travail. Et la création s'est passée pendant l'expo. Et ça durait, l'expo durait un mois. Et on imprimait des codes toutes les semaines, quoi.
Et les codes, tu les génères gratuitement,
C'est une question, je ne sais pas.
Je pense que c'était, à la base, c'était pour garder de l'information. Je pense que c'était la surtout... C'était, non, mais avant ça, je pense que c'était pour le stockage, et pour les supermarchés, c'était vraiment pour le commerce.
C'est comme le code...
Oui.
C'est comme le code barre.
Ouais. Et après, c'était pour mettre de l'information rapidement, que tu puisses accéder. Et
plutôt que de taper l'adresse...
D'accord.
Tu flashes et t'as l'adresse, mais maintenant ça envoie sur ce que tu veux, en fait.
D'accord. Et t'as même des applications où tu fais juste comme ça, je crois, deux téléphones, t'as jamais vu ça. T'as ton téléphone et j'ai le mien, et je t'envoie ma carte comme ça.
Ah oui.
Je t'ai fait un truc comme ça, donc tu reçois un code QR et tu cliques et t'as le contact avec son adresse, mail, téléphone.
D'accord.
Ouais.
Donc ça a toujours été ça, en fait, vraiment, questionner ces outils qui se créent, en fait, au fur et à mesure. Parce que la réalité augmentée, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans, quoi. Mais vraiment, et aujourd'hui, avec toutes les applications augmentent, il y a Orasma, il y a plein d'applications aujourd'hui. Plein d'applications aujourd'hui qui permettent de faire ça gratuitement, et comme ça, tout le monde peut le faire, quoi. Donc dans mes œuvres, il y a une résidence que j'ai faite pendant 2 ans, que Donald a fait après la 3e année, celle de Cléa. C'est une résidence création où on ne crée pas des œuvres d'art, mais on crée avec du public à partir de nos propres démarches. Donc là, par exemple, j'avais pris tous les dispositifs que j'avais pu utiliser en 10 ans, 15 ans, et j'ai tout réessayé avec plein de groupes différents.
C'est plutôt des ateliers, en fait. Ouais. C'est plus des ateliers que
tu crées quand même de la création.
Oui, en ce moment, parce que tu as fait
la création au début de l'année.
Et du coup, ça te permet, en fait, tu n'as pas une œuvre à la fin, tu as une expo, mais qui n'est pas vraiment avec ton travail à toi, mais tu mets en avant, tu valorises le travail que tu as fait avec le public. Mm-hmm. Et donc, c'est bien parce que du coup, c'est des gens que, voilà, ils n'étaient jamais, peut-être, jamais cru à faire de la réalité augmentée. Ils font de la réalité augmentée à 15 ans. Mm-hmm. Ils font un court-métrage avec moi, ils ont fait un web documentaire. Mm-hmm. Donc, on avait réussi à mettre des objets web documentaires dans. Donc, c'est pas mal, quoi. Mm-hmm.
Ouais, c'est pas du SSD hein, encore, mais je vais l'acheter.
Mais du coup, c'est intéressant. Moi, j'avais, je vais vous montrer, j'avais préparé dans le train tout à l'heure, mais bon, c'est un truc tout bête. Hein. Mais la réalité augmentée avec une œuvre qu'on a fait avec les élèves, mm-hmm. comment à partir de. J'avais travaillé avec des danseurs. En fait, comment à partir de, d'un type de collaboration, c'est pour la question du médium. Qui peut être adapté. Donc, je travaille avec des danseurs et la question était, bon, avec des danseurs, qu'est-ce que je peux faire, moi, avec eux ? Donc, moi, je leur ai proposé ben, la réalité augmentée. Donc, on fait des photos et à partir des photos, dès qu'on flash la photo, par exemple, il y a autre danse qui apparaît. Donc, ça, c'était intéressant. De...
Alors, normalement, tu commences par les supports et après, tu penses à ce que tu vas faire ou
non,
c'est
non.
Le contraire ?
Ça dépend du public parce que là cette résidence était tellement... Je ne sais pas, Donald Miller, c'était d'accord, mais on est tellement dans des conditions de déjà où les gens qui ne comprennent pas du tout l'art en général, l'art numérique encore moins, tu as une structure qui porte les projets, qui c'est un théâtre, donc ils ne connaissent rien. Mm-hmm. Et du coup, ils veulent te faire produire des choses avec des publics tellement différents. Tu vois, avec une classe de CM1, CM2, je ne sais pas, jusqu'à des retraités.
Bah, couleur création, même des.
Ah, couleur création, oui, ça, c'était des.
Des gens avec.
Des adultes en situation de handicap.
Handicap mental.
Ouais. Sinon, mais d'un. Oui, les trisomies 21, vraiment, c'est pas facile. Et avec eux, j'ai fait de l'impression 3D. Tu vois, donc c'est quand même essayer d'apporter des choses à. Donc c'est vrai qu'avec eux, ça part du principe et de besoin. Bon, après, ouais, ça, c'est de l'art.
Ouais.
Tu vois, et. Bon, le contenu, c'est pas parce que je l'avais pas sur mon téléphone, mais. Tu vois, regarde, là par exemple, t'as ça. Mm-hmm. Donc à partir de là.
Ah, mais c'est du Otari.
Ouais.
Avec un ballon.
Je pense que.
Bah
ouais. Du coup, tu utilises toi comme appli là.
Ça, c'est vraiment. C'est gratuit, pareil. Tu vois, et voilà.
Là, ça marche. Tu sais que t'as fait de l'animation.
Elle a été faite sur le serveur en fait. C'est des trucs gratos.
Ouais. Parce que moi j'avais fait la gaieté lyrique, hein, ouais. Otari aussi, tu sais.
Ouais.
Ah. Voilà. Bah, tellement mignonne.
Donc voilà. Donc c'est vraiment à côté de l'interaction, quoi. Mais bon, disons que la partie mécanique et physique de la machine, en fait, a toujours été très présent dans mon travail. De comment ça marche, pourquoi ça marche, ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, sinon, en fait, on utilise de l'art numérique pour utiliser de l'art numérique, quoi. Pas de... Tu vois, ça c'est aussi un projet qu'on avait fait avec Donald. Ça, on a fait avec Donald. On a fait ça en Belgique. Et c'était une résidence de 10 jours. Et on était amené à. On a été trois à travailler avec un gars qui faisait du son, en fait. Musicien, je sais pas, non
ouais.
Artiste sonore, ouais. Quoi. Et du coup, on avait. Je sais pas si t'as la vidéo, toi.
Si, c'est pas la vidéo.
Parce que du coup, en fait, on a essayé de travailler avec des données. En fait, on voulait travailler avec ce qu'on avait autour de nous. Et comment capter ces données, quoi. Donc, dans un ballon de. C'était quoi, un ballon de.
Un ballon en mousse,
quoi.
En mousse, tu sais, pour pas
on l'a éventré, on a mis notre téléphone portable avec plein d'applications open source, tout ce qui était gratuit. Qui mesurait le temps, la vitesse, l'altitude, et du coup voilà, ça donnait ça quoi.
En fait, c'était aussi que le, on a travaillé sur dans un lieu qui était le musée d'art de la ville de Montreux, mais qui n'était pas encore ouvert.
Oui.
Donc on travaillait sur, on était un peu aux portes du musée, on ne pouvait pas rentrer dedans évidemment, les travaux n'étaient pas encore finis.
Oui.
Et donc on s'est dit, on va essayer de quantifier cet espace, on va essayer de mesurer cet espace.
Partout,
Donc on a pris l'idée de la balle pour le côté un peu ludique, surtout la balle dans tous les sports, en général tu l'envoies et on te la renvoie. Il y a une espèce de notion aussi de relation. Et donc on avait emprunté aussi les tenues des agents de la ville. Ça c'est les tenues des agents de la ville. Et voilà, c'était un peu une chorégraphie dans le lieu. avec cette balle pour mesurer un peu, pour arpenter un peu le large. Donc là, c'est la mise en place, c'est Claude qui travaille.
Non, et du coup, c'était intéressant de voir comment les méthodes, les créations, parce qu'on était trois quand même à apporter, tu vois, des idées.
Ouais.
Et comment après, avec les données, on a créé une œuvre d'art. En fait, c'était une vidéo, c'était ça.
Parce que le final, c'est la vidéo.
C'est ça. On a fait une performance.
Par exemple, là, on ramassait évidemment la poussière, parce que la balle avait du scotch autour.
Oui.
Et là, c'était voilà, comment est-ce qu'on passe d'un pied à l'autre. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu chorégraphique. Mmh. Et par moment, on va leur montrer ce que la.
C'est que ça, il y a la vitesse, quoi. À chaque fois qu'on balance le truc, il y avait des données de vitesse, des distances.
Oui.
Et après, avec un logiciel pareil open source, on a fait avec des données, on a fait du son. Mais pas bon, après, ça a été retravaillé par le gars qui fait du son. Mais,
il a récupéré les chiffres pour produire une bande son, en fait.
Qu'est-ce que c'est la série là ?
J'avance un peu, hein.
Là, on a encore la vision de la balle.
L'install était sympa aussi. L'installation qu'on a fait dans le musée là. Je trouve là.
Ouais, enfin après on l'a.
Ça n'a pas été respecté, mais là c'était sympa.
Donc évidemment, alors c'était voilà, la balle a des accidents, la balle fait sa vie. Et après, on avait même sorti, je crois que là, moi j'aime bien la séquence de fin quand on travaille sur l'ordinateur. Voilà. Donc là, on a récupéré le scotch qui a ramassé toute la poussière. Mmh. Et on fait lire, c'est-à-dire que le scotch, on l'a étendu et on le fait lire par le logiciel.
Ah, ok.
Je vais peut-être remettre en. Voilà, c'est ce que toute la bande là en question.
C'est
voilà.
Quoi ce logiciel ?
C'était Sound. Ouais, je l'ai aussi. Attends, je reviens un petit peu en arrière pour remontrer justement ce. Je crois qu'on voit la bande. Ah, voilà.
Mmh. Quand on le. Oui, quand on
voilà, on déroulait comme ça toute la matière. On prenait en photo et après on faisait lire par le chien. Comment s'appelait ce logiciel déjà ?
Je sais plus, je dois l'avoir, mais c'était un truc gratuit.
Ouais. Donc ça c'est le GPS par exemple. C'est tout ce que la balle a fait comme trajet.
Okay.
Et le GPS peut aussi analyser pour produire du son. Donc en fait, on a produit voilà, d'un truc un peu ludique, on a produit à la fois du chorégraphique,
ouais,
on mesurait,
ouais.
Et puis aussi du son quoi.
Ouais.
C'est
un peu comme la partition de musique là. Voilà.
Ouais.
Et après, il se
pose. Je veux tellement bien, là. Donc là, je trouve que ça fait un son de son tout pourri, mais après, on l'avait
relu. Mais ça, c'est pas un son comme ça.
Non, c'est pas, non, c'est parce qu'il a pas fini le travail.
Ah oui. Oui, parce que là, il y a un problème avec le son. Ah oui.
Bon, après, voilà. Ah, c'est le son qu'on entend derrière.
Là, c'est vraiment une voix.
Et là-bas, c'est qui explique.
C'est qui explique toutes les données qu'on a réussi à avoir en 3-4 jours, quoi.
Ouais.
C'est les soirs du vernissage, donc on a fait une performance en fait qui n'était pas live parce qu'on a utilisé les données qu'on avait.
Mm-hmm.
Et parce que bon, c'est que ça se plantait, ça fait des fois ils mesuraient qu'on avait fait 400 mètres de haut alors qu'on était resté toujours à plat. Enfin, il y avait bon, ce qui est intéressant, voilà. Tout. En fait, on avait c'est surtout là, et des fois le capteur GPS il faisait n'importe quoi. Mm-hmm.
Mais c'est bien intéressant aussi.
Oui. Il vit aussi sa vie quoi. Une forme d'autonomie.
Ouais, oui.
Là avec le GPS pareil, moi, là, je vous montre un dernier truc et comme ça on peut parler. C'est celui-là. Celui-là par contre, c'est une résidence que j'avais fait à Milan où j'ai metté un peu. Je me suis. En fait, j'ai activé sur mon téléphone un GPS, mon GPS, et j'ai créé une plateforme où le GPS était toujours connecté.
Mm-hmm.
Donc les gens savaient où j'étais tout le temps. Et donc les gens pouvaient interagir avec moi. Mmh. Donc j'étais, moi, devenu l'outil des créations pour les gens.
Ouais.
Donc les gens pouvaient me contacter par texto, par téléphone ou par message sur l'application, sur ça qui s'appelait... Ça marche ou pas Internet ? Non.
Non, je sais ça.
C'est un GPS.me, Tumblr, c'est un truc... Et donc, du coup, pareil, pendant 3 mois, j'ai collecté un masque. J'ai écrit ça mal. Attends. Hop. C'est comme ça, non ?
Ouais.
Et tu vois, et donc là, du coup, les gens pouvaient, donc, ils pouvaient voir où j'étais tout le temps. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai fait en 3 mois à pied. J'ai fait de la vie à pied, en fait, tout le temps. Tous les jours, je partais au moins 5-6 heures. Et à chaque fois, je m'arrêtais quand j'avais pas à Milan. Et du coup, voilà, là, les gens, il y avait façon de participer. Ils pouvaient m'envoyer des textos, tout ça. Ouais. Et les gens, en fait, me demandaient de n'importe quoi. Donc, oui, non, il y avait des gens qui me demandaient n'importe quoi. Donc du coup, il m'a envoyé à faire des photos. D'accord. Donc j'étais et comme j'avais plein d'outils sur moi, donc j'avais mon iPad, téléphone portable, GoPro, j'avais plein de trucs qui me permettaient de filmer, prendre des photos, dessiner avec mon doigt. Et c'était en fonction sur des demandes particulières. Regarde.
C'était un outil.
J'étais un outil et il y avait des choses quand j'avais pas d'interaction avec les gens, donc je m'arrêtais moi-même, tu vois. Donc je faisais des dessins avec l'iPad et du coup je mettais les coordonnées où j'étais. Là j'étais un peu en attente des choses. Là il y avait des gens, regarde par exemple cette personne-là. La personne m'a dit, vous avez t'as pas fait la Casa Fontana Silvestri. Et donc du coup, moi je réponds, voilà. Que je vais la faire, et du coup, je vais voir la casa, et je fais des dessins, je fais visiter le lieu. Donc, j'ai découvert, si tu veux, le lieu d'une manière différente. L'appareil, quelqu'un me parle d'une peinture, il y a des gens qui m'envoient pareil. Tu vois, là, c'était par jour. Non, c'était pas par jour.
Comment tu avais diffusé pour que les gens sachent comment te contacter? C'était.
Ben, c'était une résidence, donc j'avais fait ça avec les pépinières européennes. Donc, du coup, ils avaient bombardé tout le monde. Donc, c'était du non-stop, quoi. Et j'avais mis sur Facebook, là où j'étais en résidence, pareil, ils mettaient tous les jours des trucs. Et après, j'avais des potes. Et donc, du coup, les gens pouvaient s'enregistrer. Donc, j'avais voyé le nom. Il y avait des gens où c'était anonyme. Donc, du coup, parfois...
Il y avait des trucs bizarres.
Ah oui, il y avait des trucs. Et du coup, mais ça m'a permis de faire des trucs, tu vois, avec des applications comme ça, où je faisais des petites vidéos. Tu sais, des applications qui te permettaient de prendre une photo avec du son. Donc, j'avais, à la fin, j'avais tellement... Tu vois ça? C'est juste des photos avec du son, en fait. Ah oui, qui durent 30 secondes, ça, 20 secondes. Et à partir de là, ça veut dire que j'avais tellement de matière à la fin que du coup, j'avais fait cette expo-là. Attends, elle est où? C'est ça. C'est à partir de là, tu vois, j'avais... Oh, on voit mieux, là.
Tout est mis en mode, quoi.
Non, mais il y a quelqu'un qui a pris le vidéoprojecteur et du coup, j'ai fait une expo. C'est super chouette.
Et j'avais fait une expo, tu vois, dans un hangar, dans un truc immense. Mais je vais en voir la vidéo, c'est plus simple.
D'accord. Mais en fait, quand tu es dans une résidence comme ça, normalement, la résidence promeut quand même l'artiste en question, ils activent leur réseau, voilà.
Et du coup, tu travailles, tu es vraiment proactif parce que tu fais que ça, quoi. Et tu as un budget, tu as une... voilà, donc attends... Tu vois là, bon là, regardez tout là. Donc là, c'est le montage de l'expo. Donc j'ai vraiment créé avec tout ce que j'avais, avec les vidéos, j'ai créé des œuvres avec les vidéos que j'avais fait, avec des capteurs Arduino. Mais bon, pour moi, le numérique était vraiment un outil de travail, de création, d'inspiration. Je me suis inspiré pour obtenir tout le contenu, quoi. Et donc là, c'était du papier calque. Quand tu défaisais, c'est pas des avions, les gens pensent que c'est des avions. En fait, chaque papier retraçait mon parcours par jour. Et pourquoi cette forme? Parce que c'était juste une forme graphique. Voilà. Et si tu la mettais au sol, tu pouvais reconstruire.
Et là,
c'était des sculptures que j'avais créées avec des gens. J'avais demandé à plein de gens, à des groupes de personnes, en fait, des artistes, des designers. De dessiner la forme de la ville. Donc les gens, ils sont dessinés des choses différentes. Là, on avait créé un livre pareil. Là, c'était les dessins sur un écran holographique. Donc plus tu t'approchais, en fait, le truc qui devenait flou. Il y avait une vidéo. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup d'éléments que je peux créer. D'œuvres, en fait.
Ça, c'était pépinière, ça.
Ouais. Oh, l'expo a coûté 25 millions d'euros.
Ah, c'était
vachement bien. Et ça, c'était pour l'expo, ma bourse, c'était genre 1000 euros par mois.
Ah, bah, il y a quelqu'un. Pardon. Tout à l'heure, je vous appelle. Je ferme tout, hein.
parce que vous êtes les derniers.
Ok.
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 Bah, okay. Amusez-vous bien.
Ça a été la réunion aussi.
Ouais.
Donc voilà. Donc c'était vraiment. Moi, je travaille beaucoup aussi sur des grands projets, un grand projet par an, des trucs où il y a, où j'ai pas beaucoup de temps quand même à réfléchir sur le médium en fait,
ce
que j'utilise et comment ça peut être amené au-delà de. Tu vois, le médium n'est pas que juste on fait une photo et voilà, c'est la photo. Non, comment il y a tout un travail. Vous nous enfermez là, c'est
ça? Non, je regardais ça. Il y a une porte, j'ai pas les clés.
Oui. On ne
peut sortir pas.
Pas là.
Non.
Oui. On peut sortir par là.
C'est bien le balèze là quand même. Hein.
Trop large.
Non, mais vas-y, je suis pas Donald, vas-y, parce que sinon ça va.
Avant que ça ferme.
Ouais. Après, je pourrais vous laisser le PDF parce qu'il y a aussi une autre œuvre qui est pas mal, là, c'est celle-là, quoi, que j'avais fait avec le CNRS, tu vois. Mm. C'est une œuvre quand même qui est assez intéressante, mais bon, ça on pourra discuter après, quoi.
On peut trouver ça sur ton site.
Oui, il y a plus.
Non, mais c'est marrant, du coup, parce qu'en effet, t'as déconstruit l'image au début du pixel, après sur les couleurs, après sur le code.
Oui.
Et là, je vous laisse, en fait, je te laisse dans le truc, là. Il y a le catalogue, en fait, de cette expo-là, la dernière.
Ouais.
En fait, c'est, si tu vas dans Index, voilà.
Ouais,
il est là, t'as vraiment, c'est ça, donc tu t'as tout le, il est là, quoi.
Ça vient du site.
Ouais. Donc, t'as vraiment.
Oh. Là, oui.
Décidément.
Ouais. Non, il faut l'installer, c'est pas grave.
Donc, vous pouvez le regarder après. Okay.
Oui,
ça reste
sur
l'ordi.
Ok.
C'est pour le blog.
Ouais.
Ben.
Tiens, tu veux quoi? Tu veux tout ça?
Là, je l'ai mis, le câble là.
T'as pas vu la télécommande, t'as pas vu le
bébé? Ah oui, attends, il faudrait. Non, mais c'est bizarre pour pouvoir mettre ça là.
Elle n'était pas là, je pense.
Voilà. Ah, c'est bon ça.
Oui.
Ouais,
c'est
un peu sucré, ça.
T'as une ligne, toi?
Ben, ouais, j'en ai un peu ferme un peu. T'es toujours aussi sec, toi, mais moi, je. Ouais, je pense que t'es trop contrasté, toi.
Ah, ça n'a rien à voir, quoi.
Ah, c'est bien ça.
Oui.
Alors.
Vous me dites.
Mode image, cinéma. Ou alors c'est contraste, ça va être contraste, c'était.
C'est bon.
Mode Lesta.
Faut t'enlever dynamique, en fait, peut-être aussi.
Ouais, c'est un peu mieux.
Présentation, tu vois, c'est un peu bleu.
Ouais.
Non, mais t'es un peu bleu, présentation. Regarde, ton blanc, il est bleu quasiment. Ouais, c'est bien cinéma. C'est un peu chaud. Bon, ouais, c'est un peu rouge, mais c'est pas grave.
Okay.
Non, c'est bien, reste comme ça.
Et le mode là-haut, toujours.
Bah, je sais pas, tu peux regarder, mais. Moi, ça roule là pour l'instant. C'est mieux que Klaus, hein.
Donc là. Alors dynamique, ouais, peu dynamique, présentation c'est blanc.
Oui,
hein.
Oui, c'est bon. Non
ouais, présentation si tu veux, ouais.
Et sinon c'est le contraste qui était.
Non mais maintenant c'est bon je pense hein. Là c'est pas mal. Les noirs sont
mieux.
Toi t'as montré là moi, j'ai montré aussi mon projet de diplôme. Parce que t'as montré ton projet de diplôme des arts déco.
Ouais.
Non, Klaus, il a montré son projet de diplôme.
Non.
Bah, si, t'as montré. Pas ton projet de diplôme, t'as montré en 2007-2006. Le premier projet que t'as montré, c'est ça?
Ah oui,
avec le CD-ROM, pardon. Projet CD-ROM. Moi, j'avais fait aussi en. Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que ça sent? Voilà, c'était sur Directoire. Moi, j'avais fait un.
Ah oui.
Bah, ouais, tu vois, j'ai encore le. J'avais fait un CD-ROM, donc je donnais le CD-ROM. Chaque jury avait un packaging avec le CD-ROM, et le CD-ROM tu mettais dans l'ordinateur et ça lisait tout de suite les vidéos. Donc il y avait un peu un côté performance technique, parce que déjà faire de la vidéo sur un CD-ROM qui pouvait se lire de manière fluide, c'était assez un challenge. C'était en 2001 le diplôme. Hein. Et le diplôme parlait de une façon d'envisager le quotidien de manière un peu décalée. Donc c'était un projet un peu de performance. Et comment investir le quotidien.
Des inspensifs.
Donc voilà, il y avait un menu. Alors je vais dans le menu.
T'étais de sec.
Hein, non, c'était pas moi. Ça, arrête.
Ah oui, il faut être de
ouf. Donc voilà.
C'est ça. Alors bon, voilà, différents trucs. Alors il y a une séquence qui a beaucoup fonctionné, qui était assez. Donc c'était une séquence de métro où là je fais rien, il se passe rien. C'est-à-dire que là, c'est en boucle, ça tourne tout le temps. Et donc en fait, les personnages ont comme ça des petites surbrillances. Et quand j'en prends un et que je le mets sur l'autre, il se passe quelque chose entre les deux.
Ah, ah oui, ça c'est Pierre, comment il s'appelle, Sorin là.
Enfin, Pierre Sorin, ouais. Pierre Sorin, ouais. Donc là, j'ai pris le premier avec le deuxième, il le maltraite. Si je prends par exemple la femme au fond et que je mets sur le premier, il va se passer un truc entre les deux. Voilà, il n'y a que des combinaisons comme ça, il y a 12 possibilités dans le.
Il s'en va tout le temps.
Il n'y a pas les gentils, quoi. Si, 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 il y a des gentils, voilà. Elle le rend sage. Par exemple, je ne sais plus si je pique que sur la fille là, tous les autres réagissent à ce qu'elle fait, par exemple. Voilà, ça peut être mignon aussi, hein. Il y avait aussi une séquence de cuisine au petit déjeuner. C'était deux façons de faire le petit déjeuner. Alors je bouge la souris pour aller sur l'un ou sur l'autre.
Oui.
Alors il y en a un qui est assez freestyle dans des gestes un peu techniques à gauche où vraiment il lance les trucs, voilà. Et l'autre où c'est vraiment plus organisé et plus. Voilà, ça saute un petit peu.
Ouais.
Et plus carré où vraiment, voilà, il pose les choses correctement. Et donc, on peut naviguer de l'un à l'autre. Donc, ça, alors, encore une fois, c'est. Après, il y a d'autres trucs plus simples où, voilà, là, c'est distribué, là, c'est dans un métro, le personnage distribue des tracts blancs.
Ah. C'est
voilà, il y avait. Alors, c'était, encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Hein, c'était en 2001.
C'est fou, mais c'est ça.
C'est ouais.
J'ai jamais vu ce projet.
Non, bah, c'est mon projet de diplôme en 2001, ça a 20 ans. Enfin, ça n'a pas 20 ans, mais ça a 15 ans passé.
Okay.
C'est là, c'était cool. Voilà, la voiture était mal garée, donc le personnage décide de mettre le passage piéton sur la voiture.
Tu l'as vraiment fait ? C'était.
Bah, regarde.
Non, mais dans le sens, c'était pas ta voiture.
À ton avis ? C'est évident qu'on l'a calé là à partir de la prise de vue, tu vois, pour avoir l'anamorphose. Donc il y avait plein d'actions comme ça, notamment, il y avait quoi aussi dans le métro toujours ? Il y avait. Ah oui, des affichages. Alors ça, c'était avant les collectifs anti-pub, où voilà, on avait décidé de recouvrir, mon personnage avait décidé de recouvrir toutes les pubs avec du fond bleu, avec du bleu. Et ça, c'est vrai qu'après la RATP, masque en bleu, en fait.
Ouais, il y a
des fronts. Maintenant, il y a des fronts des trams, mais avant, à un moment, il y avait du bleu en fait. Bleu, ça, ouais. Enfin, on l'avait fait avant, si tu veux. J'avais jamais vu ça.
On en a parlé, c'est ça, on avait déjà parlé. Non, ouais. C'est l'affiche qu'ils mettent quand il n'y a rien.
Ouais,
c'est
vrai. Oui, mais ouais. Qu'il y a des plis en fait.
Ouais.
Qui est assez beau. Si
vous avez,
en fait,
ouais. Vous avez jamais vu.
Le mec qui arrache tout.
Ouais, c'est pas. Et donc, on avait comme ça mené plusieurs actions dans le métro où voilà, il recouvre tout en bleu, quoi.
Mais tu m'en as parlé de ça.
Alors le paradoxe, c'est que moi je l'ai fait de manière sauvage, les profs étaient en train de me dire bon, nous on te dit pas de le faire.
Il
faut pas être pour l'école, etc. C'était en fond, ouais, c'est ça. Et en fait, et après je l'ai montré au directeur artistique de la RATP, Yokami Nagai, qui est le directeur artistique de la RATP, il a adoré le projet. Il a fait évidemment, enfin je peux pas dire que je l'adore, mais je te le dis en off, je trouve ça vachement bien, peut-être parce que je vous montre encore d'autres trucs. Voilà, donc on fait le truc proprement, on a tout ouais, on correctement.
Ah, et là aujourd'hui, tu fais ça et tu t'es
fait. Ah non, là c'est.
Tu finis un peu, quoi.
Et il y avait aussi. Attends, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Je crois. Oui. J'avais aussi collé des affiches blanches avec des petites lignes noires pour que les taggeurs puissent taguer droit. Parce que je trouvais qu'ils taguaient pas. Ils taguaient pas droit, donc j'aurais mis des lignes pour qu'ils puissent écrire correctement.
Mais pourquoi c'est pas toi qui le fais
Bah parce que moi je filme, ouais, c'est mon personnage quoi, c'est, ouais. Bon, c'est lui. Bon,
c'est moi, lui c'est et toi, moi, après, voilà. Ok, ouais, d'accord.
Ouais. Et donc t'avais le résultat à la fin où les gens avaient écrit sur les lignes, les graffitis, voilà.
Ça c'est pas con en fait. Et du coup tu changes.
Ouais, tu changes, tu replaces, ouais, tu remettais.
Comment il s'appelle l'artiste qui essaye de mettre avec la police, le typo, ouais, voilà. Il y a plein de tags et du coup il met des typos en fait pour essayer de comprendre de ce qui est marqué. Mmh. Je crois que c'est pas grave.
Ça pourrait marcher en rétablissement augmenté dans
le temps. Ah bah ouais, j'ai un élève qui a fait ça en rétablissement augmenté. Tu regardes le tag et ça l'écrit correctement.
Bon voilà, ça c'est la fin du... Alors j'essaie juste, je sais plus comment on quitte le truc maintenant.
C'est le personnage, c'est
Syriac. Syriac, là, ouais, c'est bon. C'est mon pote. Donc ça c'était le, voilà, le projet de diplôme. Après j'avais fait aussi ce projet là en post-diplôme, c'est là ça vous paraît aussi complètement dépassé et obsolète. C'était on mettait un casque, enfin on mettait des lunettes et des gants avec des capteurs d'accélération, et en fait vous boxez contre un boxeur qui est en vidéo là, voilà, on voit sur l'écran, et en fait plus vous tapez fort, plus la vidéo va ralentir et le son va s'atténuer, et si jamais vous faites rien, c'est la vidéo qui accélère. Et le son augmente. Voilà, vous prenez des coups visuels dans les lunettes, vous prenez des coups et le son augmente.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est voir. En fait, c'est les gens qui regardent ce qui se passe. Quoi.
Exactement.
Du coup, tu vois
voilà,
l'écran.
En fait, c'était la mise en scène. Parce que voilà, les gens, ils sont vraiment coupés du monde avec le casque. Ouais, et ils boxent. Enfin, voilà, ce qu'ils voient dans les lunettes, c'est ce qu'il y a là. Hein. Et donc, voilà, il essaie de voir comment. Alors, c'est en 2002, c'est avant la Wii, avant tout ça. Hein. Encore une fois, avant l'Oculus, voilà.
Du coup, c'était quoi? C'était un écran?
Ouais, c'est deux LCD, ouais. Deux LCD. Donc voilà. Quand vous faites rien, la vidéo accélère, elle change de chromie. Et oui, ce qui est drôle, c'est la mise en scène du personnage comme ça dans un espace où il boxe contre personne là.
Un peu le tsunami là, ça.
Dans une box. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est. Voilà. Bon, après, j'ai fait d'autres trucs, voilà. Hein. Ouais, ça, je peux montrer, c'est assez drôle aussi, mais rapidement. Après, je faisais un peu entre de la scène et des... Ça, par exemple, c'était un concert néo-punk antique. Donc, on était habillés en punk, on chantait des chansons de... Et on mettait le spectateur, on le mettait en scène dans un fauteuil de barbier et on le coiffait, mais avec dégoût. Donc, en fait, le spectateur, lui, il était dans la lumière. Il sentait pas qu'on était en train de se moquer de lui, en fait. Parce que on lui chantait à la fois une ode et à la fois on lui racontait comment il était beau, comment il était grand, puissant, etc. Et en même temps, comme il ne se voyait pas parce qu'il était, je ne sais pas si vous avez vu l'image, il était complètement pris dans la lumière, donc il ne voyait rien de ce qui se passait autour. Mm-hmm. Et les gens, en fait, de l'extérieur, voyaient comment nous, on se moquait de la personne en touchant les cheveux, mais vraiment dégoûté, etc. Donc on avait fait c'est un espèce de dispositif, un peu la Pierrick Sorin d'ailleurs, un peu simple, un peu analogique. Donc après, beaucoup de choses, et en fait, ce qui a commencé à me plaire, c'est un retour un peu aux sources. À savoir faire des performances dans la nature, où là ça reprenait un peu ce que j'avais fait un peu sur un peu des trucs de sport, un peu des trucs avec mon pote justement Syriac. Et en fait, on. Il va le monter par là.
Le son?
Ouais, je comprends, pas le monter.
T'es en HDMI.
Ouais, mais. Le son. Donc en fait, c'est ce sont des vidéos qu'on a faites sur l'île d'Icaria. C'est une île qui est en Grèce.
Hein. Sur ton ordi, c'est bon.
Ouais, mais tu vois, il peut pas monter. C'est une île qui est apparue à la suite de Icare, quand il a voulu toucher le soleil avec ses ailes. Ses ailes ont fondu, il est tombé dans la mer et sa chute a créé une île en Grèce. Donc en fait, on a fait toute une série comme ça d'épreuves et d'actions dans des contextes, dans des paysages. Avant, on avait vu des suspensions. Ouais, c'est en Grèce. Voilà. Après, il y a des trucs qui sont un peu en France, mais l'essentiel est en Grèce. Donc, dans un duel. Parfois, on s'entraide comme deux frères. Parfois, c'est la compétition. Donc, des fois, il y a des limites, un peu comme le sport. Il y a des territoires qu'il faut franchir. Et donc, voilà, il y a des moments de rupture, de liaison, de chute. Donc, ça, c'est un peu le résumé, en fait. Hein.
Oui.
Parce que les performances, par exemple celle-ci, là, avec les pierres, où je lui construis un tas de pierres sur lequel il peut vraiment monter au fur et à mesure, elle dure 15 minutes, par exemple. Mm-hmm. Donc, et il n'a pas le droit de mettre un pied au sol. Il doit à chaque fois mettre les pieds sur la nouvelle pierre que je lui apporte. Ça, on se faisait un peu des règles du jeu, comme ça. Voilà. Il est obligé de mettre les deux pieds, donc voilà, il n'a pas le droit de descendre. Donc là, c'est un peu toutes les chutes à la suite. Là, par exemple, c'est un tableau final où il disparaît. Voilà. Là, il a essayé de monter au sommet, il n'est jamais arrivé, puis il disparaît en glissant du... Donc ça, tout ce qui était le truc nature, ça me plaisait pas mal. Et alors la suite, j'ai fait en Bretagne une résidence d'un mois. Et en fait, on avait fait un peu d'arc du jeu avec un ami au Québec. À savoir, on a décidé de s'enfermer chacun dans une pièce. Alors moi, j'étais enfermé dans l'exposition en France. dans une pièce. Donc j'avais masqué les fenêtres, j'avais tout masqué, donc je restais dans la pièce pendant une semaine. Et mon ami au Québec, il faisait pareil dans une pièce, il s'enfermait. Et en fait, on était tous les deux sur un fond vidéo, hein, bleu ou vert, et on s'incrustait en temps réel dans un paysage. Donc en fait, on a décidé... Donc on a décidé en fait de faire un voyage d'une semaine, lui et moi, enfermés, chacun séparément, et en fait, psychiquement et virtuellement, on est ensemble dans des décors. Donc là, c'est...
l'image...
Ouais, j'avais le retour, ouais.
Et comment vous étiez au niveau de décalage?
Le décalage,
ouais.
Ben on attendait, tu vas voir, c'est des scènes assez. Enfin, tu vas voir justement, en fait, j'ai pas le son. Donc là, j'arrive, là, c'est le vernissage de l'exposition. Donc je rentre dans la pièce et derrière, ils vissent la porte pour montrer. Et là, il y a une caméra de surveillance pour montrer que je suis dans la pièce. Que voilà, donc les gens regardent et voient bien que je suis. On m'enferme en fait.
Tu sors à la toilette, comment t'as...
Mais j'avais une petite. Enfin, c'était une pièce avec.
Tu pouvais les sortir, non.
Ah non, je pouvais pas sortir. Ah, non, je sortais pas, mais j'avais quand même une. Ouais. Donc en fait, je lui parle. Vous avez vu, il y a des. Donc je lui dis on y va, il dit on y va, et en fait voilà, et on nous voit tous les deux dans un décor.
Oui.
Donc alors la qualité est mauvaise parce que faut que ça stream, hein, avec une webcam 320 par 240 pixels pour pouvoir avoir un peu de fluidité. Et dès qu'on passe derrière la caméra, on avait préparé plein de fonds d'écran.
Il y avait un scénario.
Bon, au jour le jour. Et des fois, on disait, tu veux aller où aujourd'hui? Bah voilà.
Qui choisissait les images?
On discutait.
Ah,
ouais.
Il y avait quand même un moment off où vous étiez toujours...
Il y avait un moment off, ouais. Il y avait un moment où on réfléchissait sur, bon, demain, où est-ce qu'on va? Donc là, en fait, je vais vous montrer comment
ça se... Le concept des mains, et aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein.
C'est un peu comme, les trucs que Big Brother.
Et donc voilà, ouais, exactement. Et donc là, en fait, là, c'est la webcam. Je vous montre un peu le... Donc, pour faire semblant qu'on avance tout le temps, je passe derrière la webcam et je reviens dans la scène.
Le mec, il veut des lots.
Ouais. Donc là, c'était une journée type. Par exemple, le soir, on arrivait, voilà, on mettait la tente.
Et en même temps, la galerie était ouverte, les gens pouvaient...
Ouais, les gens pouvaient voir sur Internet.
D'accord.
Et les gens pouvaient voir la caméra de surveillance où ils me voyaient, moi, là, dans l'espace réel. C'est-à-dire sur fond vert. Alors, ils pouvaient entendre à la porte que je parlais à quelqu'un.
Ouais.
Et ils voyaient sur la caméra de surveillance que j'étais tout seul.
Ok.
Et c'était que sur Internet qu'on pouvait nous voir ensemble, en fait.
Ok.
Alors, je vais vous montrer peut-être... parce que j'avance un petit peu, là... extrait, alors je vais vous montrer voilà un peu ce qui se passait entre guillemets. Donc ça c'est les moments un peu on était un peu fâchés lui et moi, en fait il parle beaucoup. Et mine de rien on n'est pas ensemble, mais on était quand même toute la journée connectés l'un à l'autre, et tu peux pas lui dire non, bon bah salut j'y vais, parce que t'es enfermé en fait. Il sait que t'es enfermé, et en fait à un moment on disait non mais là j'ai besoin de me retrouver un peu tout seul. Je suis tout seul, mais j'ai besoin de tout ça parce qu'il était vraiment très. Et donc là, je m'inspirais d'une émission télé qui s'appelle Bob Ross, où il apprend à peindre des paysages. Et donc, j'avais décidé de peindre les murs de ma grotte, le seul mur blanc. Alors, ce qui était dingue, c'est que quand j'étais toujours enfermé dans du verre, le mur, j'ai l'impression qu'il était magenta. Parce que je passais toute la journée dans du verre, et le mur, le seul mur blanc, il était magenta. Je voyais tout le temps rouge. Donc là, je fais la peinture, comme il explique comment peindre les paysages, je peins la manière de Bob Ross, hein, voilà, au couteau. Donc je me peins, en fait, il fait des paysages complètement factices, c'est-à-dire que c'est des paysages avec plein d'effets picturaux, vraiment très mauvais. Et donc je trouve que ça racontait bien le virtuel, ça racontait bien aussi. Donc après, je m'imaginais dans les montagnes, où voilà, je lance avec ma corde, je lance une corde, et je vais après marcher sur la corde pour atteindre l'autre montagne, voilà. Donc après, comme on est dans le verre, on peut faire ce qu'on veut, on peut vraiment... Donc j'avance un peu... Ah oui, alors ça c'est très débile, ça. Alors comme il y a je lui montre le paysage que j'ai peint, et il y avait une séquence aussi un peu clé qui est on voulait se suicider. Mais comme on était dans une pièce fermée, et on voulait se suicider dans le Grand Canyon, donc on a pris une photo du Grand Canyon, on a enlevé le personnage, et on voulait se suicider en sautant. Mais comme... comme c'est un mur en fait, c'est débile. Donc on essaie de sauter, on peut même pas se suicider en fait.
Ah putain.
Donc il y a ça, je crois qu'il y a une séquence aussi juste après où on essaie d'aller au bout de la route, et c'est pareil, la route c'est le mur en fait.
Ça, il y a plein de films de science-fiction dans cette idée là quoi.
T'as une limite quoi.
Ouais.
Donc voilà, alors c'est, après, je fais juste une séquence marrante, c'est. Là, on s'était retrouvés, et en fait, on se retrouve. Moi, je suis dans le désert. Voilà, on se retrouve.
On
arrive.
Va
dans les
toilettes,
c'est ça? Non, regarde, on se retrouve dans un, devant un lac, une photo qu'on aimait bien au Canada. Et donc en fait, on est réconciliés, il me rend ma casquette. Alors c'est drôle parce qu'il me rend ma casquette, on n'est pas ensemble. Donc on devait. On devait faire un tour de magie, mais très mal fait en fait. Hein, pour, en fait, voilà, je vais sortir la casquette, voilà. Ah et puis il la cache et voilà, hop, on se fait passer. On peut pas se toucher, ouais. Et donc en fait, on a décidé là, voilà, on voulait sauter dans l'eau ensemble, main dans la main. On a loupé le. Donc lui, il a peur, lui fait le personnage qui a peur. Voilà, moi je fais le personnage qui est courageux et on se tient la main et on saute dans le. Enfin, c'est compliqué parce qu'on n'est pas ensemble aussi.
Tu regardes la caméra du coup.
Bah, tu vois, tu regardes un peu où t'es par rapport au feedback aussi. Et on saute et en fait, on atterrit derrière. Voilà, j'atterris derrière le truc quoi. Enfin, ça c'est le off. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce lac, on va le retrouver. On l'avait jamais vu et en fait, on l'a réactivé dans un autre projet. Qui est celui-ci, qui est encore un projet un peu débile sur fond vert, où en fait on a décidé de reprendre une histoire de la peinture canadienne, parce que lui est canadien. Donc là on est à Calgary et on a décidé de reprendre le groupe des 7, c'est un groupe de peintres qui ont révolutionné la peinture au Canada, qui ont fait rentrer la peinture canadienne dans l'art moderne. En fait on part du centre-ville de Calgary et on décide de peindre des paysages qu'on ne voit pas. Donc on est habillé, alors je vais vous montrer rapidement la. Ça, c'est leur canne, voilà.
C'était bien ta peinture. Hein,
hein?
Elle était bien la peinture que t'as faite.
Ah, t'as vu, hein? Ouais. Donc là, on est dans le centre-ville et on amène notre décor à chaque fois sur fond vert. On est habillé en costume 1920, donc en velours, peintre à l'ancienne, etc. Et on monte le décor dans des endroits qui nous plaisent dans la ville et on décide de peindre des cartes postales qu'on a demandées à l'office de tourisme. Quels sont les plus beaux lieux dans la région, les plus beaux paysages? Et en fait, on peint les paysages qu'on ne voit pas. Donc on peint, voilà, je vais montrer. Ah mince, c'était un petit peu avant. Voilà, on choisit. Voilà, donc je peins un paysage que je vois pas. Donc les gens ils passent dans la rue, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de peindre en fait, parce qu'il peint du vert quoi, enfin, y a rien. Donc ça c'est la vidéo où on a demandé à des gens si on pouvait pas dormir chez eux, dans leur jardin. On est vraiment avec notre tente et on dort, voilà, on dort devant chez les gens. On installe notre tente. Voilà, on fait le pique-nique, enfin on est des aventuriers quoi, on est dans la tente et on installe à chaque fois notre tente où on peut, où on veut, dans un skatepark. Donc on arpente la ville en fait en peignant des paysages qu'on voit jamais parce que c'est la ville. Un feu de camp, alors là c'est une scène un peu tragique, c'est je détruis une peinture dans le feu, le camp. Voilà, donc on se balade dans la ville, chez les gens, on installe notre tente, etc. Et donc la deuxième vidéo c'est ce qui s'est passé sur le fond vert. Donc en fait, dans l'exposition, on exposait nos toiles et on exposait les deux vidéos, à savoir le hors-cadre et voilà, nous, dans la nature. Et là, c'est ce qu'on a fait sur fond vert. Donc la scène où tout à l'heure je peignais, voilà, on s'arrête, on regarde le paysage et en fait, on va le dessiner, on va le peindre. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'était les deux vidéos mises en parallèle avec des problèmes d'échelle par moment, mais c'est pas grave, voilà, on... Bon, voilà, c'est l'Ouest américain, hein, les cowboys. Hein. Ah, mais mon pote est très.
Les sons de cette vidéo, c'est les sons captés en ville?
Non, c'est les sons d'oiseaux qu'on a rajoutés de manière honteuse. Donc là, on est en pleine ville en fait. Donc c'est drôle parce que des fois, les gens interviennent en disant: mais qu'est-ce que vous faites avec votre casquette et vos machins? Vous peignez quoi, les gars? C'est quoi ce bordel? Donc ça c'est voilà, c'était pour raconter encore une fois cette espèce de voyage immobile ou de voyage dans des environnements un peu virtuels. Alors on a fait un peu la même chose, là je vais pas le montrer, mais on a fait la même chose avec le pôle Nord, c'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans un motel au Canada et on faisait du streaming live. Là pour le coup c'était vraiment en continu. On s'enfermait chacun dans deux chambres séparément. On a dit au propriétaire du motel: vous rentrez pas dans les chambres pendant 4 jours. Et en fait on a voyagé au pôle Nord et au pôle Sud. Donc là, c'était la séquence avant. Donc on arrive dans le motel canadien et on s'enferme. Et en fait, on stream toute la journée. Nous deux, on est séparés dans deux chambres différentes. Et on s'est mis un décor de glace, de igloo. Et on se raconte des histoires, on lit des livres. Parce qu'en fait, on est enfermé. Le scénario, c'est qu'on est enfermé dans un igloo parce qu'il y a la tempête dehors. Enfin, on se fait des histoires. Il y a un moment, il y a une attaque d'orques et d'ours. Enfin bref, c'est un peu débile comme projet, mais voilà. Et là, c'est la sortie du motel. Et donc j'en arrive à la projet de réalité augmentée. Là c'est un des premiers projets que j'avais fait qui date de 2000. Je sais plus où il y a la date. 2011, voilà. En fait, c'était pour les pépinières européennes. Je vais montrer les premières images. Voilà. C'était un endroit qui était à Saint-Cloud. Et en fait, j'avais annoncé ça comme Donald Abad, ce jour-là fera voler un tas de pierres. Mm-hmm. Et donc, pour faire voler un tas de pierres, j'avais mis un code QR sur un cerf-volant. Et en fait, quand vous regardiez le cerf-volant avec votre téléphone portable, on voyait un espèce de tas de pas de pierres, parce qu'à l'époque, c'était trop lourd de faire des pierres en... Voilà, c'était des cubes, en fait. Et donc, ce qui était drôle, c'est que le cerf-volant est posé par terre, donc le tas de cubes, il est comme un cairn. Et avec le cerf-volant, le tas de pierres, il tombe, en fait. Ouais, il bouge et il tombe. Donc, c'était ça qui m'intéressait aussi. Donc, je vais montrer, voilà. Là, c'est le tas de pierres qu'on voyait à travers le téléphone. Donc, ça, c'est la qualité du téléphone de l'époque, hein, 2011, avec le tas de cubes qui est collé, voilà, qui est collé au cerf-volant. Mmh. Donc, le tas faisait, je crois, 8 mètres de haut. Voilà, ce qu'on voyait à travers le téléphone portable. Et j'ai essayé d'en faire une petite vidéo parce que comment raconter ça, en fait parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire voler une espèce de masse énorme. Mmh. Et donc, en fait, j'ai fait cette vidéo où je fais voler un vrai cerf-volant et on a remplacé le cerf-volant par la forme pour montrer un peu les échelles. Donc là, je joue comme ça avec cette forme. Il y a un peu un truc un peu chorégraphique aussi avec les grandes éoliennes. Donc là, je m'imagine, par exemple, le cerf-volant est là, évidemment, et j'essaie d'imaginer là, si je peux toucher le sommet ou pas de mon tas de pierres.
Ah, un petit envers toi le...
Tu essaies d'estimer ce que ça fait 8 mètres de distance, tu vois. Donc là, j'imagine, voilà, le tas de pierres, où est-ce qu'il peut se situer, est-ce que je peux toucher son sommet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la masse qui épouse, évidemment, le mouvement du cerf-volant. Et ce qui trompe, ce qui montre que c'est pas, voilà, que c'est pas comment on factice, c'est l'ombre en fait. Si vous voyez l'ombre au sol, ça reste l'ombre du cerf-volant.
C'est très bien.
Ouais, il fallait pas forcément tricher ou. Et donc là, j'ai peur que le truc m'écrase et voilà, je fais remonter le cerf-volant.
Ça marchait vachement bien
là, la vidéo.
Ouais.
C'était fluide quoi, l'animation.
Ah non, mais là, c'est l'animation en post-prod là.
Oui.
Là, t'es en post-prod. Là, le cerf-volant, il est réel, mais on a calé, tu sais, on a fait un tracking de la forme. Ah, t'es obligé là.
Ah, je pensais que t'avais filmé du coup à travers le.
Non,
le
non, là, t'imagines déjà en 2011.
Oui, tu me disais.
Là, c'est pour faire une dédicace à Klaus, mais c'est. J'avais fait le. Pareil, un ballon, on regardait le ballon avec la tablette, on voyait l'Otari dessus.
Donc là, t'avais un problème avec l'Otari dans l'autre sens, c'est ça?
En fait, moi je voulais que le ballon soit, c'est la gaieté lyrique.
Oui, c'est ça.
Je voulais que le ballon soit en hauteur et c'était plus facile pour regarder, mais il voulait pas qu'on accroche quoi que ce soit au pilier, c'était classé historique.
Au sol, quoi, ouais.
Donc j'étais obligé de le mettre au sol. Donc c'est pour ça que t'étais obligé de, tu vois, c'était débile comme
tu vois.
Ouais. Là il y a ça aussi, juste en hommage au chat là, que je vais retrouver tout à l'heure là. Donc c'était une. J'ai décidé d'arpenter un territoire hein, qui est un champ en plein hiver, et j'ai décidé que ce soit mon chat qui devient mon guide. Mon chat qui est aveugle de naissance, qui devient mon guide. Donc c'est plus le chien qui guide l'aveugle, c'est le chat aveugle qui guide l'humain. Et donc pendant une semaine, j'ai suivi mon chat dans le champ. Voilà, donc je suis tout seul en fait dans le champ, donc c'est moi qui filme. Le chat a une petite caméra et il filme aussi. Et donc je pose la caméra sur trépied, je nous filme tous les deux dans le champ. Alors la nuit, on dort ensemble dans la tente. Et le matin, on repart à l'aventure dans le champ.
On est parti une semaine avec ton chat.
Ouais, dans un champ. Et en fait, tu vois, le champ, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un champ, c'était l'hiver. Donc, il n'y a rien de vertical, en fait. Le seul truc vertical, c'est moi. Et c'était vraiment presque un projet abstrait, en fait, de géométrie variable. Avec, voilà, là, c'est le moment où je vais repartir. Le chat ne veut plus marcher, parfois, aussi. En fait, le chat, comme il est aveugle, et quand il miaule, il sent qu'il n'y a rien qui renvoie le son. Et au bout d'un moment, il était saoulé, en fait. Parce qu'il se dit, c'est l'infini. Et quand il avance, j'avance derrière lui, donc il revient sur ses pas, il se dit mais Donald il a avancé, enfin il n'a plus aucun repère, des fois il pissait pour faire des marques olfactives, mais comme c'est très humide, en fait il avait aucun, un chat c'est un animal qui est territorial, et là il n'avait aucun moyen d'établir son territoire parce que c'était non seulement immense, il n'y avait aucun truc qui restait fixe, il n'y avait aucune pierre, aucun mur, rien, donc il était complètement perturbé, c'était comme s'il était dans l'espace, comme s'il était dans un espace d'espace infini en fait.
C'est horrible ce que tu as fait.
Non mais ça va, tu l'as vu récemment, heureux quand même. Bon, à la fin, il a décidé de court-circuiter le projet. C'est qu'à un moment, j'ai voulu changer sa caméra, il ne fait jamais ça. Il est monté sur mes genoux, puis il est monté sur mes épaules, il ne voulait plus descendre. Ouais. Parce qu'il s'est dit, là c'est bien, ça marche tout seul, j'en ai marre, je ne sais pas où on va, ça me fatigue.
Toi, tu as l'air de savoir où tu vas.
Bah non, ouais, c'est ça, tu as l'air de... Voilà, donc ça c'est les photos un peu... que je faisais avec le chat. Voilà, et ça, c'est le chat qui marche. Quand il faisait des nœuds avec la ficelle aussi. Son petit strabisme. Il est né aveugle. Ouais. C'est un chat grec. Il est né à Athènes. Il est né, on l'a trouvé dans la rue en fait. Donc ça c'est les vidéos du chat avec ses moustaches qui me filment. Donc c'est moi qui filme le chat. Donc c'était toujours, je pose la caméra avec le trépied, je déclenche la télécommande, je passe devant, le chat passe devant. Donc fallait un peu organiser ça. Il n'y avait pas de place pour une troisième personne qui filme. C'est vraiment le chat et moi, c'est tout. Dans un espace horizontal. Donc ça c'est là, dans le genre aussi un peu projet un peu solo comme ça d'aventure, c'est le cratère de James Turrell, je sais pas si vous voyez cette œuvre, qui est toujours pas accessible au public. En fait, j'ai décidé d'aller la voir alors que c'était interdit au public, et donc j'ai pris de l'eau, un vélo et ma caméra et mon cerf-volant, et j'ai décidé d'aller chercher ce... Alors c'était compliqué parce que j'avais juste les photos et c'est indiqué nulle part. En fait, il y a des volcans comme ça, il y en a partout dans ce coin-là. Mm-hmm. Et il n'y a pas de panneau disant Rodin Crater, c'est ici. Donc je cherchais un peu la forme. Alors c'est un endroit, c'est le désert hein, en Arizona. Mais faut voir qu'il y a des serpents à sonnette, des tarentules. Enfin, c'est l'Ouest américain, quoi. C'est pas... Et si jamais on vous arrive dans une propriété privée, on peut vous tirer dessus. Donc en fait, j'arrive jusqu'au bout. Et c'est là où j'envoie un message dans pas longtemps, je crois. Je vous montre. Voilà. Donc j'arrive et il y a écrit not just passing, ne pas franchir, site sous surveillance, etc., etc. Donc la porte est ouverte en fait, la dernière porte pour arriver jusqu'au. Et je suis là, mais qu'est-ce que je fais quoi ? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Donc je demande à mes copains, j'envoie des SMS, bon, est-ce que j'y vais ? C'est ouvert. Alors qu'il y a écrit en gros Security Watch. Et donc j'attends, comme ça, je me pose la question, bon, j'y vais pas. Là je suis tout seul, hein, je pose la caméra sur trépied. Donc j'attends, je lance des cailloux dans l'eau. Voilà, j'ai décidé d'un moment de mettre mon cerf-volant. En fait, je m'étais dit, je vais filmer le sommet du cratère en mettant une caméra sur mon cerf-volant. Parce que comme je trouve que je ne peux pas y aller à pied, si j'y vais avec le cerf-volant, ben, au moins, j'y suis pas allé, c'est le cerf-volant qui a volé. Ah, c'était avant les drones, hein, encore une fois, parce que maintenant, je ne ferai qu'un drone, quoi. Donc là, avec le cerf-volant, et le cerf-volant, il tirait, vraiment, il allait passer
la frontière
et j'étais un peu embêté. Et en fait, à ce moment-là où je faisais mon cerf-volant, il y a une voiture qui arrive, un 4x4, un pick-up. Et c'est le garde, en fait, du site. Et il me dit, je lui demande, mais pourquoi c'est fermé ? Moi, je veux y aller, je suis français, c'est mon rêve, etc. Il fait, non, mais tu peux pas, c'est... Donc, je le chambre un peu, je lui dis, non, mais je suis sage, je suis derrière la grille, je voulais être le plus près possible de l'endroit. Il fait, ouais, mais c'est bien, mais reste là, quoi. En fait, il sait pas que je le filme. En fait, je lui demande si je pouvais filmer, il m'a dit non. Donc, en fait, quand je suis allé vers lui, parce qu'on est quand même séparés par des grillages, j'ai mis un coup dans la caméra pour que la caméra se tourne et filme un peu la fin de la discussion, quoi.
T'as fait un bocal.
Je me suis arrangé pour que. Mais en fait, il ne sait pas. Là, c'est le moment où il part, mais il y a un moment voilà, où on se parle. Voilà, là, il n'est pas là dans le cadre. Hein. On voit juste la Jeep, en fait. Et là, je fais semblant de faire des trucs comme mon cerf-volant pour qu'il ne voit pas. Donc en fait, il me dit voilà, quand il me dit fais attention, en fait, c'est pas fais attention, sois prudent, prends soin de toi. C'est fais attention.
Rentre pas.
Quoi. C'est voilà, fais gaffe quoi. Tu fais pas.
Pourquoi c'est interdit de rentrer
C'est une propriété privée. C'est son œuvre en fait, et c'est une œuvre que James Turrell va peut-être jamais finir. Mais vous voyez comment c'est à l'intérieur ou pas ? Est-ce que vous avez. Je vais peut-être vous montrer quand même. Enfin, moi, c'est un endroit qu'il a acheté en 84, avec une grosse bourse d'argent. Et en fait, il a toujours pas fini, c'est le projet d'une vie en fait. Donc, ça, à l'intérieur du volcan, c'est comme ça. Il a construit des pièces.
Et il a déjà pu la visiter en fait.
Ben, pour les galeristes, pour les acheteurs. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça.
Il a déjà vu des photos avec des gens.
Alors, et en fait, les photos sont les photos officielles. C'est-à-dire que personne n'a le droit de rentrer, de faire des photos comme il veut. Ouais, tu vois, parce que je pense qu'il veut tellement des choses pures, épurées, parfaites, qu'en fait, à mon avis, avec le.
Mais c'est bizarre, je ne savais pas que ça appartenait à lui dans les sens des.
La propriété.
Oui, c'était une propriété.
Ah ouais, si. Et en fait, il achète avec. Dès qu'il a de l'argent.
C'est bizarre.
Ben, dès qu'il a de l'argent, en fait, il achète aussi les terrains autour.
Ok.
Comme ça, il n'y aura personne qui construira un hôtel ou il n'y aura personne qui construira quoi que ce soit.
Ouais.
Donc il est vraiment.
C'est son combo, quoi.
C'est ça, c'est son mausolée, en fait. Et en fait, j'avais fait. Ça m'avait pas mal intéressé. Après, j'étais amené à travailler avec. À la Fondation Vasarely. Et je trouvais ça pas mal de mettre les deux en rapport, en fait. Parce que là, j'ai fait voler mon cerf-volant comme tout à l'heure, mais devant la Fondation Vasarely, comme si cette forme qui est assez moche, elle n'avait pas le droit d'être exposée dans la Fondation, parce que Vasarely, c'est quand même tout est très calé, nickel. Et donc, je trouvais que ma forme était un peu brute et maladroite, et finalement, je l'ai fait voler en bordure, on va dire, de la, du musée, c'est Aix-en-Provence. Donc elle a pas le droit de rentrer dans le musée. Et à côté de ça, c'était pareil, j'avais l'impression de pas avoir le droit de rentrer dans le cratère. Et je trouvais que les deux, quand tu parlais de mausolée ou de tombeau, c'est ça en fait, c'est que ça, la Fondation Vasarely, c'est lui qui a designé la fondation, qui a décidé que ce serait son musée. Mmh. Et là, c'est pareil, c'est James Turrell a décidé que c'était son musée. Et les deux ont un aspect un peu entre cathédrale et tombeau et pyramide pour les pharaons, quoi. Mmh. Et donc, je trouvais que les deux, avec le cerf-volant, avec le vent, et puis moi qui essaie de rentrer en contact avec ces œuvres d'art qui sont monumentales, avec mon petit cerf-volant, voilà, il y avait un. J'appelais ça diptyque de l'échec, parce que c'est. Voilà, toi t'es un courant d'air et eux ils font des trucs monumentaux, quoi. Mmh. Après, il y a d'autres vidéos, la Fondation Vasarely que j'avais faite. Justement, comment envisager ces œuvres qui sont monumentales? Bah, j'avais pris une GoPro et j'avais pris une grande perche en bois et j'avais décidé de filmer à hauteur de ce que j'aimerais.
Et t'en laissais faire?
Ouais, j'étais en résidence là-bas.
Ah ouais.
Avec
M2F.
M2F.
Ouais. Donc en fait, je visite le musée comme ça. Mm-hmm. Donc là, on voit les œuvres à la hauteur parce que les œuvres elles font quand même 6 mètres de haut, quoi.
C'est incroyable ce endroit.
Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des jeux optiques qui sont pas comme c'est de la GoPro et il y a un grand angle. Ouais, ouais. Ça joue aussi avec les effets optiques. Ça. Donc là, c'est le moment où ça déforme, tout est vertical. Ouais. Mm-hmm. Donc ça accentue évidemment le. Alors, on va voir un petit peu. Voilà. Donc ça joue bien avec le Vasarely. Et puis c'était comment réussir à dialoguer avec quelqu'un qui fait des œuvres monumentales comme ça. C'était quand même. Donc j'ai fait avec voilà ça. J'ai fait aussi avec le chat. Le chat visite aussi le musée, mais je crois que j'ai pas le. J'ai mis le chat avec une caméra et le chat visite le musée en aveugle, quoi. Enfin, voilà. Donc ça c'était ça. Ça c'est ce qu'il va avoir. Bon après je montre pas tout. Hein. Ça c'est ce que vous avez vu sûrement déjà au. Comment ça s'appelle la galerie Mi. Donc ça c'est ce que je vais refaire encore, là je pars au Brésil la semaine prochaine à Vitória pour faire la même installation et au même moment donc pour la Maïf
où, à Vitória,
le lieu
ah, oui.
Ah, je sais plus, je te donnerai le.
Tu restes encore là-bas?
Bah, je reste 5 jours,
ah.
Je fais l'installation et je repars.
Ah, d'accord.
Parce qu'en fait les deux vernissages sont au même moment, le vernissage de Vitória c'est le 18 et le vernissage à Paris c'est le 20.
Ah, okay.
Donc en fait j'ai pas le temps, l'aller-retour pour installer des pierres, tu vois, c'est vraiment Donc ça vous l'avez vu, voilà. Hein,
tu mets en soute sur tes pierres.
Ben non. J'aurais demandé, je veux des pierres, tel format, tel machin, ils vont les chercher pour moi, tu vois, j'espère que j'ai pas beaucoup de jours pour installer, quoi. Donc ça avec les pierres, après ça reprend voilà, toujours dans les paysages, j'ai un peu fait d'autres actions, de dessins. De mapping un peu comme ça où je vais dessiner des pierres énormes. C'est presque de l'escalade ou c'est presque voilà, du travail où je vais toucher toute la surface de la pierre. Donc après ça fait des volumes et je mettais en parallèle avec quelqu'un qui fait vraiment de la grimpe et qui grimpe vraiment sur ses rochers. Et ce qui m'expliquait c'est que lui c'est pas de la falaise vous grimpez en vertical comme ça. Là, le fait de grimper des petits volumes comme ça, c'est que vous grimpez aussi à l'horizontale. Mmh. Et ça décrit bien la façade, la falaise, ça va être plutôt la 2D en fait. Mmh. Alors que ça, on envisage plus la 3D. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai fait des volumes, des faux mappings 3D. Voilà, à partir des dessins, ça c'est un des volumes.
Tu veux pas les retexturer sur
la. Bah si, regarde, bah, j'ai, voilà.
Ah oui, d'accord.
J'ai fait de manière un peu artificielle, tu vois. Voilà, ça c'est le volume que j'avais fait, que c'était une bande de papier là.
Ouais.
Et ça, c'est le tout petit, nos petits cailloux, donc je les ai mis à l'échelle tous. Et en fait, ce rocher-là que vous avez vu, là, qui est en une seule bande, c'était celui-ci, là, ce gros rocher. Je vois bien une photo. Voilà, celui-ci. Mmh. En fait, je pensais vraiment pouvoir le dessiner en entier. Mais c'était rien que la bande-là, elle fait 20 mètres.
Ah oui. Mmh.
Et je pensais vraiment, ouais, mais je le fais en une journée, c'est bon. Et en fait, je passais ma journée à frotter ma craie noire, mais j'ai plutôt, en fait, à la fin. Et j'ai juste fait une journée, j'ai juste fait une bande, quoi. Alors qu'il en faudrait, je sais pas combien. Donc voilà, ça c'était les projets un peu qui continuent un peu entre la performance, le truc nature, reprendre un peu. Ça c'est pareil, c'est des actions aussi dans la nature où je vais essayer de sortir des pierres, de faire des pierres séva, de grimper, de porter, d'effacer des traces. Ça aussi c'était il y a plein de motos qu'en fait qui passaient dans un endroit qui est un peu une carrière de pierres. Voilà. En fait cet endroit-là, je l'ai vu la première fois, il était tout blanc, comme si c'était vraiment une plage géniale, etc. Et je voulais faire une vidéo dedans où vraiment tout était blanc, parfait, comme ça, voilà. Mmh. Et en fait, je suis revenu une semaine après pour faire le tournage. Il y avait des gens qui étaient passés en moto. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais effacer les traces. Mmh. Donc je commençais à effacer toutes les traces à la main. ou avec un balai, donc j'ai filmé ça aussi. Et je me suis dit, bon, bah, le vent va passer et le vent va nettoyer correctement, lisser tout ça. Et une semaine plus tard, je pourrais refaire le tournage. Et je revenais pour faire le tournage, les mecs étaient repassés en moto, dans le lieu. Et le lieu est dingue, en fait, le lieu c'est vraiment tout blanc comme ça en fait. Mm-hmm. Et c'est assez pur, il y a un côté vraiment pur. Voilà, le lieu était comme ça avant. Mm-hmm. Donc j'ai fait plein de tournages, après voilà, là je décide de souffler sur le sable pour ramener du sable dans l'espace d'exposition. Donc ça fait au moins 6 km, donc je soufflais mon sable en 6 km, à la fin il n'y a plus de sable. Mm-hmm. Donc plein d'actions un peu absurdes comme ça, donc j'ai fait plein.
C'est qui pousse un rocher de glace là dans le...
Ah bah c'est Francis Alice. Ah. Ouais. Un peu, voilà, un peu ce genre de projet un peu débile, enfin débile, absurde. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos comme ça. Après, on a, bah ça vous l'avez vu avec Vincent. Mm-hmm. Et ça, c'est le dernier truc que j'ai fait en résidence au Japon l'an passé, il y a un an quasiment.
Déjà.
Ouais. Ouais, c'est. Donc ça, c'est, je voulais en fait exposer des pierres. En fait, je voulais faire un jardin zen japonais dans ce lieu qui est assez immense. C'est une salle qui est plutôt dédiée à la musique, donc c'est ou au théâtre. Donc c'est un parquet très beau, flottant, et à l'extérieur il y a la nature. Et j'ai dit, je veux exposer des rochers. Pour les mettre, les placer comme dans un jardin zen japonais, un jardin minéral. Et je veux que sur ces rochers, il y ait une bande de mousse qui fasse comme une ligne. Je veux vraiment les positionner pour que ça fasse comme une ligne. Donc j'ai pas eu le droit de mettre des rochers parce que c'est trop lourd, trop fragile, etc. Donc j'ai fait des faux rochers. Et donc les rochers sont plats, en fait, c'est du bois. Et j'ai mis dessus de la vraie mousse. Donc on a, ça, c'est ce, quand on s'installait sur ce petit coussin, on voyait vraiment une ligne horizontale parfaite. Hein. Mm-hmm. Dans tous ces rochers, et au sommet, une autre pierre, un cerf-volant avec encore une fois un dessin d'une pierre. Et quand on regarde ce dessin d'une pierre, on voit le scan en 3D d'une vraie pierre qui vient d'une grotte. Parce qu'en fait, tout ça, c'est né quoi ? C'est né d'un endroit qui s'appelle Akiyoshidai, c'est un plateau constitué de ces rochers comme ça, blancs. Donc c'est un parc national. Et en dessous, ce plateau qui est immense, qu'on appelle la Pampa, comme la Pampa argentine. Il y a une grotte, qui est une grotte aussi, un monument historique, un monument national du Japon, qui est une grotte avec des cailloux magnifiques, etc. Donc moi, j'ai décidé de faire apparaître un caillou de la grotte sur ce cerf-volant qui est à l'extérieur, etc. Enfin, j'ai joué sur le dessus, le dessous, en faisant cette installation-là. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait des petits hologrammes aussi avec des rochers que j'avais scannés. Ça, c'est le plateau en question. J'avais fait un petit décor de fond vert aussi. Certaines pierres deviennent aussi invisibles, donc parce que j'ai recouvert de verre. Ça, c'est des petits pop-up que j'avais fait aussi pour reprendre un peu l'idée du plateau, etc., avec le volume. Le dessous, avec cette espèce de pierre en forme un peu de bite, c'est vrai. carrément. Mais qui traverse, hein, l'hymen de la terre. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite aussi. Il y a un tout petit bosquet, en fait, dans ce lieu-là. Et c'est un bosquet, en fait, où moi, j'ai planqué une... En fait, la première fois que je suis arrivé, il y avait un débardeur sur un cintre. C'est un tout petit bosquet, il y a un débardeur sur un cintre en bois, donc c'est quelqu'un qui l'a oublié là, et comme on est au Japon, bah, personne ne l'a volé en fait. Tout le monde le laissera là, ce cintre avec ce débardeur. Donc moi je suis arrivé en... Voilà, ça c'est le plateau en question. Hein. Vous voyez comment c'est... Là c'est le...
C'est la Pampa.
Ouais, c'est ça, la Pampa. Ouais.
Nous on a... La Pampa c'est un désert en fait, c'est ça, en quelque sorte.
Ouais,
c'est des endroits désertiques.
Oui.
À chaque fois ça désigne des lieux désertiques.
Donc. Ouais, après c'est comme tu fais paître ton troupeau quand même. Donc ça c'est le bosquet en question qui est tout petit. Donc là on a filmé avec un drone. Et en fait dans le bosquet il y a ce fameux t-shirt, voilà, ce débardeur qui est abandonné et qui moi m'a servi d'appât. En fait j'ai accroché une caméra, j'ai accroché un piège photographique à un rocher. Et c'est un peu le journal de bord du rocher. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on appelle un piège photographique. Merde, je peux pas mettre en plein écran.
Ouais, faut que tu...
J'arrive pas à avoir accès
au... Sur Vimeo,
c'est pas vrai. Donc en fait le piège il se déclenche quand il y a le passage de quelque chose. Donc là le premier jour, voilà, on voit le débardeur qui me sert un peu d'appât pour les humains. Et sinon je mettais aussi de la nourriture au pied du débardeur pour que les animaux soient attirés. Donc premier jour on a un kitsune, un petit renard qui vient. Et en fait je filmais comme ça, je mettais une carte mémoire, je la changeais. Et tous les jours j'allais voir ce qui se filmait, je ramenais comme si je ramenais un peu le compte rendu de quelqu'un qui tient un journal de bord, donc là une petite hermine. Et puis parfois en plein jour, c'est les corbeaux ou c'est les humains qui passent.
T'avais un déclencheur ou tu filmais
Non, c'est y a un capteur de mouvement.
Ouais.
Donc ça, c'est le jour, s'il y a du vent, bah, ça filmait. Mmh. Alors j'étais un peu déçu parce que j'ai eu des scènes de coups, ça s'appelle le bosquet, la forêt des gens riches, de l'homme riche. Donc des fois, il y a des corbeaux qui passent manger la nourriture que je posais. Le corbeau, c'est le seul qui a vu, le seul animal qui a vu la caméra en fait. C'est assez intelligent et vraiment il regardait l'œil de la caméra et il se disait mais c'est quoi. Et il interrogeait. Et vraiment, il y a une séquence à un moment où on le voit parler. On se demande c'est quoi ce truc. Et alors les humains. Alors je pensais attraper des scènes aussi. Il y a des gens qui passent. Il n'y a pas de scène, je sais pas, parce que voilà, des couples ou des machins, il n'y a pas eu de scène d'amour ou de. Il n'y a eu rien vraiment de très étrange. Des fois, les enfants voient la caméra, des fois, voilà, ils ne la voient pas. Donc j'avance un peu, là, c'est des corbeaux toujours. Voilà, les gens passent, des fois, ils voient le t-shirt, souvent aussi. C'est quoi ce t-shirt? Donc c'est un peu le journal de bord de cette pierre, de ce bosquet. Ah, il y a des randonneurs qui passent. Hein. Un petit peu lui, il marche devant. Hein. Bon, ça lag un petit peu. Voilà, donc il y a des gens qui viennent faire des photos. Et c'est un tout petit bosquet, vraiment. Il n'y a pas grand-chose. C'est une toute petite clairière dans le bosquet. Et ça faisait mon petit journal de bord, comme ça, du bosquet. Donc, ça, c'est un peu les images que j'ai récupérées. Le cintre en bois, le débardeur qui est très, très usagé, très vieux. Mais je suis sûr que si j'y retourne encore, là, c'était la nuit. Des couples qui passent la nuit. Le corbeau, quand il interroge le... Il y a une fille qui regarde le débardeur, mais c'est drôle parce que comme il y a le débardeur, il regarde le débardeur mais il regarde pas la caméra, donc ça me permet de. Et ça, c'est un tanuki qui a qu'un seul œil et qui a chassé un renard. Enfin, ça, c'est une séquence de fin, je crois. Je vais essayer de la montrer. Ça, c'est marrant parce que le tanuki, c'est un espèce de gros petit ours, un petit blaireau en fait. Et il chasse le renard pour manger la nourriture que j'avais posée en fait. Donc, c'est les gens qui passent. On va l'avoir là. Non, c'est aussi un marcheur. Je ne sais pas si on va l'avoir. Bon, on ne l'aura pas. Je ne sais pas, c'est là. Donc voilà, donc c'est le bosquet en question, dans la pampa, enfin sur le plateau. Voilà, donc voilà un peu tous les travaux. Voilà, et ça, c'est l'expo que j'ai fait justement pendant Cléa, ce dont parlait Klaus. Ah oui, non, je voulais montrer voilà, en réseau augmenté, parce qu'on est quand même un peu là-dessus aussi. Donc j'ai fait des affiches avec les élèves. On a fait donc les fameuses affiches. Non, reste.
Non.
Ouais. Donc on a fait une application qui était téléchargeable sur les stores. Donc l'application s'appelle Safran. Donc ça, c'est les 6 affiches. Je peux vous laisser essayer. Ça, ce sont les 6 affiches sélectionnées. Donc c'est les affiches qu'on pouvait voir dans la ville. Donc
sur.
Ouais. Attends que ça fasse le contraste.
Ouais.
Alors là, rapproche-toi peut-être un petit peu. Ou même.
Sur l'écran.
Sur l'écran, mais l'écran, il est comme il est. Voilà. Ça va arriver. Du son, excuse-moi.
Oui.
Donc ça, c'était un livre de Richard Long. Donc en fait, il y a les pierres...
Oups. Ah, ouais. Ah, c'est moi.
Ouais, c'est toi.
Pardon.
Faut relancer. Donc en fait, c'est, comme c'est un livre de Richard Long, il fait apparaître des pierres sur la page blanche avec le discours de Richard Long. Quand tu vois l'affiche dans la ville, voilà, tu peux voir les pierres qui apparaissent et la dimension un peu, la démarche en fait de l'artiste.
Et les affiches étaient partout dans
la... Ouais, je vous montrerai après, j'ai fait une petite démo.
Et Safran, donc c'est une application comme Augmente ou...
Ah non, c'est Safran, c'est le nom du lieu. Ah. Et c'est l'application qu'on a faite avec Unity.
Unity.
Ouais. Donc ça, c'est une des affiches, je t'en montre une deuxième. Alors là, pour l'instant, on est dans des affiches qui sont, on va dire, opaques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de transparence, donc ça, des pages qui tournent. Un petit effet après Abracadabra. Alors, ça, c'est en 3D, par contre. Je pense que tu peux même regarder là sur la grande, et si tu te lèves, tu peux vraiment bouger. Voilà, tu peux tourner autour, et il y a. Si tu te déplaces, il y a vraiment les lettres qui se détachent.
Oui.
Attention, attention. Ah, oui, là, c'est
bien. Ouais, voilà.
Ah, oui.
Là, c'est bien.
Là. C'est ouf d'avoir réussi à faire ça.
Alors, ça, c'est une autre, là. Elle se lance, là. Ouais.
Ouais.
Donc là, c'est un peu plus. Celle-là est transparente. Celle-là, c'est un peu comme un décor de. Je crois que si tu vois ma main là, tu vois ma main
en
verre.
Ouais.
Celle-là, on voulait faire. Celle-là, on voulait faire en 3D. On n'a pas pu la faire en 3D.
Tu fais le contenu, tu le fais en AutoCAD ou
Bah non, soit c'est des vidéos. Ouais. Bah là, c'est des vidéos. Regarde, là, c'est des vidéos. Mais celle-là aussi, on voulait la faire en 3D parce que c'était plein de petits. C'est plein de petits. Ouais, ce que je t'avais envoyé. Plein de petits cailloux qui se tournent. Mais c'était trop lourd en fait.
C'est compliqué. Regardé, c'est trop polygone. Il y a peut-être des logiciels qui font moins de polygones, mais là, c'était une maquette.
C'est compliqué en fait. Le compromis toujours technique entre. Et je crois qu'il y en a encore. Alors celle-là fonctionne pas. Elle fonctionne jamais. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a un livre qui sort. Si tu te rapproches encore un peu plus sans faire de l'ombre.
Ou sur l'écran peut-être.
Non, sur l'écran ça marche pas.
Top. Tu fais l'ombre de
là,
ton téléphone.
Temps, ouais.
Ouais, celle-là elle veut plus passer en fait. Je pense que c'est à cause du moirage, tu vois la trame. Ouais. Trop compliqué en fait. Et là il y avait un livre qui sortait et qui re-rentrait. Donc ça c'est les affiches en question. Et sinon, moi les autres affiches que je sais qu'on peut sélectionner, je peux vous en montrer quelques-unes.
Ça. T'as de la lumière devant. Ouais, vous avez bien bossé pour ce projet quand même.
Ouais, mais c'est frustrant parce qu'on aurait pu faire encore mieux en fait, tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas lancer les autres. En fait, ce qui est compliqué dans le truc de réalité augmentée, c'est qu'il faut, il faut éduquer le public. Hein. Parce que tu vois, les gens après, quand ils voient à travers un téléphone portable, ils se disent ben, si je mets la fonction téléphone, ou si je mets la fonction appareil photo avec mon téléphone, ça va fonctionner aussi.
Ouais.
Et tu leur dis maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça.
Bah, c'est peut-être ça qu'il faut développer en fait. C'est-à-dire un programme sur ton téléphone.
Quand Apple ne le fait pas déjà, tu vois. Bon, ça ne marche plus. Ça. Alors, je peux vous montrer la petite vidéo en ville en fait. On va finir là-dessus comme ça.
Parce que. Clairement, il faut que ça soit plus automatique, quoi.
Bah,
sur
ouais.
ce système-là.
Ouais, c'est pas... plus ergonomique, plus. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais même le flash code, il faut pouvoir le scanner, il faut installer une application qui scanne. Bon, il y a des téléphones maintenant qui installent ouais. automatiquement des scans à code. Mais peut-être qu'on devrait avoir deux appareils photo sur les téléphones, quoi. Un qui prend des photos, un qui voit la réalité augmentée, quoi. Mais on ne peut pas. On peut pas avoir les deux, quoi, c'est trop bizarre.
Alors, t'as l'autocode. Ah oui, c'est ça. Alors, ça, c'est les vidéos en question. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la. C'est ce que je filme moi, donc ça c'est la vie.
Tu fais une sauvegarde sur ton téléphone là.
Voilà, ça c'est sauvegarde sur mon téléphone. Donc ça c'est les colonnes Maurice. Donc ça tu vois, je me bats dans la ville et je filme. Alors ce qui est absurde, c'est qu'on savait pas que ça allait être sur des colonnes.
Ouais,
parce qu'à ce moment-là, on aurait réfléchi à faire des affiches.
Ouais,
et elle nous a pas prévenu la commanditaire en fait.
Ouais, mais bon, c'est bien de.
Ouais. Alors il y a celle-là, il y a colonne Maurice. Ah ouais, ça c'est l'expo. Alors ça c'est les affiches que vous avez pas vues. Voilà, donc le truc dingue, c'était vraiment en 3D avec plein de petits éléments qui bougeaient, tu vois, des animations dans la 3D. Donc avec la transparence, on voit l'affiche qui est derrière là.
Ouais.
Voilà.
Il y avait. Est-ce qu'il faut mettre du son aussi?
Ouais, tu peux
mettre
une
vidéo quoi.
Donc là c'était la 3D tout à l'heure, ça c'est encore une autre. Alors ça c'est une qui était pas mal parce que l'affiche était toute petite, mais quand. Je refais la démo.
C'est pas mal.
Ah ouais, donc
sauf qu'il a chopé une autre là. Ouais, il y avait tellement. Les affiches étaient tellement proches les unes des autres. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il dépliait comme un pop-up, il dépliait l'affiche, et on se retrouvait avec une affiche immense. Alors, celle-là, voilà, elle saute un petit peu, oui. Avec des jeux de transparence un peu fantomatiques.
Celle-là.
Ouais, celle-là, il a déplié en énorme, en fait. Donc, c'était drôle d'avoir aussi l'affiche qui s'étend. Et donc, il y a un jeu de transparence qui fait que tu vois encore les affiches.
Pour tout ce qu'il y a
quoi. Ouais, c'est ça. Alors ça, elle la voulait bien la commanditaire, mais si déjà l'affiche faisait, nos affiches, elles faisaient quasiment 2 mètres, pour voir ça, il fallait reculer, mais il fallait traverser la route et se faire écraser, quoi.
Ah,
tu vois,
oui, yes,
Donc voilà, les affiches, je sais pas où la compilation totale, mais j'ai peut-être déjà envoyé la petite compilation
que j'ai faite. Sur Internet.
Ouais,
sur,
elle a bien tourné, ouais. Ouais. Bon, je sais plus où j'ai mis ça, c'est pas grave.
C'était sur le site de, je sais pas, qu'une chaîne.
Ah, France 3, ouais, tout à fait. Bon, enfin, voilà le truc. Donc, on essaie de mettre ça dans les écoles, mais voilà, c'est assez long. Ça demande beaucoup de boulot, en fait.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup de boulot, parce que les élèves n'ont pas fait de la 3D, n'ont pas fait de l'animation, n'ont pas fait de.
Et les élèves, ils demandaient un peu une connaissance de.
Bah, moi, j'ai 38 étudiants.
D'accord.
Et comme ils ont leur diplôme, j'avais pas le droit de faire des projets en groupe. Donc, chacun devait avoir son affiche et son contenu. Donc, techniquement, fallait envoyer. En design graphique.
Ouais,
okay. Design graphique, ouais. Donc ils savent faire un peu des formes. Tu vois, ils savent faire les affiches. C'est la première affiche qu'ils faisaient de leur vie. Hein. Mmh. Donc il fallait déjà faire l'affiche et réussir à faire du contenu augmenté. Quelle animation ? La 3D, ils ont appris tout seul. Hein. Les 4D, ils ont appris tout seul.
Ouais, c'est trop bien.
C'est bien
Enfin, moi, j'étais un peu triste parce que tu vois, une fois que l'application est faite, une fois que la com a été faite dessus, on pourrait mettre un jour, on pourrait faire mieux, on pourrait, tu vois.
Ouais. Déjà, avoir l'application Unity, vous allez gérer quoi, je trouve.
On a pris un dev,
c'est trop
mais
bien.
Un dev qui.
Enfin, en fait, Apple l'a refusé parce qu'il y a, je sais pas si t'as vu l'application, il n'y a pas de menu, en fait. Il n'y a pas de page de garde, rien, il n'y a pas de screen. Et donc, Apple, ils ont dit, ouais, mais ceux qui... Enfin, on peut pas mettre une application où il n'y a aucune explication, en fait. Ouais. Donc, j'ai demandé au dev, est-ce que tu peux nous mettre des pages, des machins? Il fait, ouais, mais c'est plus cher.
Et t'as payé combien, du coup?
On l'a payé 1006.
Ah oui, quand même.
Mais comme il est auto-entrepreneur, il prend, enfin... Mais il avait, en fait, il avait un peu fait ça pour lui, tu vois, mais c'était le musée qui le payait, tu vois. Nous, ça nous intéressait parce qu'il est de Amiens, on voulait, tu vois, on voulait avoir un contact local pour pouvoir travailler tous les ans sur l'application, elle est augmentée. Ouais. Mais là, ils ont même mis un petit coup aussi au niveau budget, tu vois, genre là, 1006, pour faire du Unity, bon, ouais. Oui, bah. Après, c'est un essai pour lui, c'est un essai pour nous. S'il peut démarcher des clients avec ce truc-là après, tu vois, c'est un peu tout bénéf pour lui comme pour nous, mais il n'a pas saisi ça exactement. Il était jeune, il nous a fait tarif ingénieur 350 jours. 50 euros par jour, t'as dit, mec, on est une école, on est un musée, 350 euros le jour, c'est pas possible. Quoi.
Ouais.
Faut qu'on.
Ouais. Mais ok, il faudrait le refaire.
Bah, en fait tous les ans, maintenant, tous les ans, on voudrait faire un projet en été augmenté dans l'école. L'année prochaine, ce sera la fiche des portes ouvertes, je pense, pour que dans toute la France, tu télécharges l'application ESA d'Amiens et tu regardes la fiche des portes ouvertes et on va même la rendre interactive, tu vois. Maintenant, tu peux faire une espèce de jeu où quand tu bouges le téléphone, comme on est avec une école de 3D, tu vois, on est les deux écoles ensemble, mes élèves font la fiche, les élèves en 3D font le contenu 3D et qu'en plus, comme ils font du jeu vidéo, qu'on fasse un espèce de petit jeu vidéo en 3D, tu vois. Si je bouge le téléphone, ça fait bouger une balle ou un truc comme ça, tu vois, dans un volume.
Et ça, ce truc, je comprends pas que ça n'a pas été fait plus, quoi, tu vois.
Des
affiches interactives comme ça?
Bah, en fait, déjà, je pense que le premier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est les logiciels. En fait, chaque compagnie a son logiciel, et finalement, le seul logiciel qui était sur lequel on pouvait travailler, qui était facile, c'était Metaio Creator, qui était un vrai logiciel, bien conçu, que tout le monde pouvait le télécharger, l'installer, etc. Mais le truc, c'est que je pense que aucune compagnie n'a intérêt à développer un logiciel où tout le monde peut en faire. Le but, c'est que tu veux faire un truc en réalité augmentée, bah, tu m'embauches, ma compagnie, on te fait un devis à 30 000 euros et tu peux faire une démo dans un salon avec ta voiture en 3D. Mais tu n'es pas propriétaire de logiciel, tu n'es pas propriétaire de compte. Enfin, tu vois, tu as juste fait appel à un prestataire de service, en fait. Mm-hmm. Et maintenant, je pense qu'aucun développeur n'a intérêt à faire un logiciel friendly user et facile à exploiter pour tout le monde, en fait. Aucun intérêt. Donc, résultat, on se retrouve à faire avec des bouts de ficelle, avec Orasma, avec Augment, qui sont pas parfaits du tout.
Non.
Et qui passent par des serveurs où tu payes le serveur, justement. Tu vois, ce dont je me sers maintenant pour faire du Metaio Creator, c'est un serveur japonais. Bah, tu veux un contenu plus gros que je sais pas quoi, tu payes. Leur but, c'est qu'à un moment, ils se retournent. Enfin, tu vois, si tu vends un logiciel et que le logiciel, une fois qu'il est vendu, bah, tu touches pas d'argent dessus, tu as plus intérêt à faire des taux de serveur ou des abonnements. Bon. Ou alors faire du open source. Mais j'ai demandé à tous les mecs du Frénois, c'est les développeurs du Frénois, les ingénieurs du Frénois, parce que j'ai un pote qui avait fait le Frénois, il m'a dit contacte-les et tout. Ils m'ont dit bah ouais, mais faut que tu développes tout seul. Il faut que je développe tout seul, un truc en réalité augmentée. Déjà, il y a des boîtes entières qui n'arrivent pas à le faire correctement. C'est pas moi qui vais, avec mes petites compétences, en processing, tu vois. Et je pense que moi, le truc qui me chagrine, en fait, c'est faire la reconnaissance sur un truc plat comme une affiche, c'est facile. Et moi, ce qui m'intéressait c'est le volume, en fait. Mm-hmm. C'est de se dire, c'est à partir d'une forme en 3D, qui c'est une forme en 3D qui est reconnue. Et ça, on l'a perdu, ça, maintenant, en fait. Il n'y a plus de logiciel qui fait ça, en fait. C'est fini. Maintenant, c'est que la reconnaissance, on va dire, plane, quoi. Ah, oui. Mais avant, avec Metaio Creator, tu te souviens, on pouvait scanner une pièce. En fait, on pouvait scanner une pièce.
Avec des points.
Racheté par Apple.
Ah, d'accord.
Il le garde pour
et Apple le garde pour faire une app killer, tu vois, faire un truc vraiment. Enfin, je pense même pas qu'ils vont faire un logiciel, ils vont faire juste, ils vont développer juste une application où tout le monde va dire putain, ça déchire, c'est Apple.
Soit un jeu, soit un
ouais,
truc,
tu vois.
Mais le temps là, ils sont en train d'imaginer de créer ce truc. Ouais. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a rien qui remplace quoi.
Et puis le but, c'est de confisquer un peu cette technologie aussi, tu vois. Résultat, on fait des trucs. Enfin, en fait, la technologie là, je pense que ce qui a vraiment révolutionné tout, c'était le téléphone ou la tablette. Parce qu'en fait, avant, moi, je ne vais pas montrer ça, mais avant, je faisais ça comme ça, moi, la réalité augmentée, entre guillemets, une réalité augmentée low-tech. C'était quand j'étais au Japon et que c'était ce truc-là, là où j'avais des lunettes Sony et une webcam. Et en fait, je crois qu'il y a une image en dessous, là. C'est pas l'ours, hein. Ça, c'est...
Voilà. En fait, je filme avec ma webcam et ce que filme ma webcam, qui est transformé par l'ordinateur qui est dans le sac, se remet sur les lunettes. Mais mes lunettes, elles ont des écrans, mais des écrans transparents. C'est-à-dire que je vois encore ce qu'il y a derrière. Donc finalement, en calant à peu près la webcam, je modifie la réalité et je vois la réalité. Donc ça fait un peu une surcouche, un layer en plus, où ça augmente les contrastes, ça peut zoomer, ça peut changer les formes, etc. Et je vois encore la réalité. Donc c'était déjà réalité augmentée, mais low-tech. Et vraiment, moi, ce qui a fait la révolution, c'était ça. Parce qu'à la fois, il y a la caméra qui est là et l'écran qui est là. Et donc, c'est comme si j'avais une feuille de calque ou de rhodoïde en permanence, en fait. Alors que là, j'étais obligé de passer par une webcam, un ordinateur, un machin. Là, c'est vraiment comme si on avait du calque ou du rhodoïde pour voir un nouveau truc.
Mais quelqu'un qui fait un travail, c'est quelqu'un très connu, j'imagine, qui fait un chemin dans Central Park à New York avec une tablette et après, elle refait avec l'image pour suivre le...
Ouais. Mais il y a Alain Schweitzer qui fait aussi... En fait, on était au même moment sur ce genre de projet, sauf que lui, il fait vraiment les trucs plus propres que moi. Mais il avait vraiment fait réalité augmentée. Lui, il avait vraiment construit une machine très, très précise. Tu vois, moi, j'étais avec une webcam, c'était approximatif, tu vois, ça calait pas nickel. Et lui, on voit l'ordinateur dans le dos aussi. Je crois qu'à un moment, il y a d'autres images peut-être. Non, c'est pas ça. Bah, putain, il fait un truc sur la box aussi, mais il fait tout comme moi, en fait. Ça devient énervant. En fait, voilà, donc lui, il avait vraiment une stéréoscopie, donc il avait vraiment deux caméras qui filment, le truc a vraiment un gyroscope, enfin, tout est vraiment très très bien calé. Moi, c'était vraiment en freestyle, bon, c'était l'idée de la réalité augmentée, mais au Japon, en plus, c'était ça qui était drôle aussi.
Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce qu'à vous deux, vous avez deux visions du coup du multimédia un peu différentes. Toi, t'as déconstruit un peu les images, toi, t'as déconstruit l'objet ou la vidéo. Tu vois, en décomposant par le biais du numérique, en fait.
Après, il y a Claude, comme pour moi aussi, il y a un truc d'arpenter aussi le territoire, qui est un point qu'on n'a pas en commun. C'est-à-dire que pas travailler forcément en studio ou en atelier, mais d'aller sur le terrain, vérifier ou manipuler, ou collecter.
S'inspirer.
Ou collecter, ouais.
Comme ça, à chaque fois, les projets sont nourris par des sources différentes, quoi. Pas vraiment un faux truc, mais...
Et c'est vrai que c'est ce qu'ils appellent la résidence, en fait, d'artiste. Ouais. C'est pour ça que t'essaies d'en faire, et moi aussi, tant qu'on peut, parce que c'est le seul moment où tu peux vraiment faire que ça, où t'as pas des cours, PCA, ou je sais pas où tu vas te concentrer sur ça pendant 2 mois, 3 mois, et surtout, tu découvres un nouveau lieu. Donc déjà, il y a tout plein de rituels, tout plein de trajets que tu découvres, un endroit que vraiment tu découvres aussi. Et puis, c'est ça, c'est la collecte, quoi.
C'est marrant, du coup, ça se rapproche vachement du land art, j'y pense à chaque fois. Et parce que même si c'est du numérique, tu vois, c'est comme si c'était une nouvelle. Enfin, c'est comme, je sais pas, le land art, je le connais pas trop, mais tu vois, c'est cette découverte du coup d'un lieu, à chaque fois différent, de pouvoir interpréter, utiliser
en fait,
sur le lieu, et c'était pour découvrir en fait la nature en quelque sorte, quoi. Là, c'est une découverte numérique, multimédia, du coup, à chaque fois, ces nouveaux outils qui arrivent. Et in situ, forcément, ça dépend pas toujours, mais. Et aussi, le même problème sur la sauvegarde, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on fait pour sauvegarder soit une photo, soit une vidéo. Et pareil ici, maintenant, le seul moyen de sauvegarder ces trucs, on n'a pas trop la prise, ça disparaît parce que les logiciels disparaissent, comme le temps, tu vois, et donc on est sur de la photo, quoi. Presque.
Puis après, si tu penses à une démarche commerciale aussi, qu'est-ce que tu vas vendre? Enfin, je pense que tu te poses plus la question parce que t'es en galerie, moi je suis pas en galerie.
Ouais, mais même en galerie, c'est...
Oui, mais tu vois, tu as toujours la question
de... Tu vois, Arjos, qui maintenant a pas mal de mes pièces, quand je leur parle des installations, ils trouvent ça bien, ils me disent, mais comment, ils peuvent pas vendre. En fait, ils peuvent pas vendre. Il faut quand même trouver quelqu'un qui va accepter de prendre un truc...
Puis c'est ça, est-ce que tu dis,
est-ce
que
tu, but, je pense aujourd'hui,
c'est voilà ça, est-ce que tu t'engages tous les 2 ans à mettre à jour le système? Moi, il m'a posé la question, l'installation que vous avez vue avec les pierres là, la Maïf, le commissaire d'expo, il m'a dit, est-ce que tu peux pas mettre à jour techniquement ton installation et peut-être faire du nouveau contenu? Je sais pas, en fait, déjà de scanner en 3D, ça n'existe plus. Donc finalement, c'est une installation qui devient historique de fait, parce que on peut plus faire ça maintenant. Et puis aussi, c'est une installation qui a été pensée à cette époque-là avec cette technologie-là. Et pour moi, ça a plus de valeur de chercher à la refaire mais différemment avec les HD,
C'est mieux de faire un truc différent, en fait.
C'est ça, exactement. C'est soit c'est une nouvelle pièce, mais si tu me prends cette installation-là, je la mettrai pas à jour, en fait.
Bah oui,
elle était en 2014, comme ça, et c'est tout, quoi. Enfin,
c'est dans le Doompack
en
HD, quoi.
C'est ça. Bah non, mais c'est, ouais, c'est quoi le... Et j'ai dit, moi tu la prends comme une pièce historique, en fait. Pas une pièce que je vais mettre à jour, puis elle a quand même 3 ans déjà. Numérique, c'est...
Je comprends qu'on ait envie de voir. Par exemple, le travail que tu as fait en communication avec...
avec ton pote,
là. Avec ton pote, ouais. T'as envie de le voir, parce que maintenant les technologies avancées, les caméras sont meilleures, le réseau est plus rapide.
Oui, mais regarde.
T'as envie de voir en.
Oui, mais sauf que le souci. Maintenant, c'est que comme c'est des trucs, si tu veux, le dispositif il est fragile, c'est la supercherie, elle se voit. Enfin, tu vois, t'es pas.
Et ça marchait parce que c'était.
C'était de mauvaise qualité en fait. Si tu veux, si tu mets maintenant en HD, t'as vu comment dès que tu fais une vidéo en HD sur fond vert, on voit tous les défauts.
Même si la technique soit dépassée, ça ne veut pas dire que l'offre elle va perdre la valeur qu'elle a.
Ouais, mais moi je pense qu'en numérique maintenant, le souci qu'on a, ou même les vidéastes, artistes vidéo, c'est que maintenant on est plus en plus sur l'économie du cinéma, parce que dès que tu veux faire un tournage, c'est forcément de la HD, c'est forcément avec un drone, c'est forcément... Et l'image est tellement pure et tellement parfaite que tu peux plus filmer à l'arrache avec ta petite caméra et faire n'importe quoi, tu vois. C'est obligé d'avoir une équipe, d'avoir le preneur de son, d'avoir le trépied, le steadicam, tout est tellement... Le moindre défaut se voit,
Ça ne garantit pas non plus
la qualité.
La qualité, tu vois, c'est ça.
Ouais, mais t'es tellement habitué à avoir des séries de très bonne qualité, des films de très bonne qualité, des effets spéciaux de très bonne qualité, que toi, petit artiste vidéo avec ta caméra, ça, c'est pas bon, en fait. C'est vraiment pas bon.
C'est vrai que la vidéo sur YouTube qui démarre et que la première image est un peu dégueu, les gens. Tu t'arrêtes pas dessus, quoi.
Mais même en 3D. En 3D, t'es en compétition avec le jeu vidéo ou avec le cinéma. Dès que tu fais de la 3D qui est mal animée, la texture est pas bonne, etc., les gens disent, mais c'est pourri ton truc. Parce qu'ils sont habitués aux jeux vidéo, ils sont habitués au cinéma hollywoodien, tu vois. Enfin, je trouve que. Enfin, tu peux pas. En fait, on peut pas.
C'est ça, on parle de low tech à chaque fois dès qu'on fait des
trucs. C'est obligé en fait. Mais même par rapport aux jeux vidéo, dès que t'as une interface avec des capteurs, t'es en compétition avec la Wii, t'es en compétition avec n'importe quel téléphone portable qui marchera mieux. Et c'est, tu peux pas vraiment lutter par rapport à ça. Toi, t'as pas une équipe de développement pour pouvoir lutter. Donc, t'es obligé de faire des petits projets où les gens se disent, ah ouais, mais j'ai vu un jeu vidéo, c'est mille fois mieux.
Et à la fois. Contredire un peu ça, tu as aussi des applications comme Unreal qui sont gratuites et qui permettent de faire des installations, des œuvres très rapides en 2 secondes, hyper belles, hyper graphiques.
Ah ouais,
tu vois,
où tu mets, ce que tu as fait pour Valentin ou t'étais
sur voilà, Unreal. Exact. Ouais. Tu vois, de suite, tu lances le logiciel, tu mets un cube et les lumières, les textures, elles sont ultra travaillées. Quoi.
Et c'est un moteur qui a quoi, 10 ans vraiment?
Ah bah, alors, il est super vieux, c'est le premier jeu de Unreal Tournament. Quoi.
Ah,
et il a,
et le moteur encore, et encore.
Ouais, mais ils en ont inventé un nouveau pour les futurs jeux là, et du coup, ils ont rendu celui-ci libre parce qu'il s'en sert vraiment plus, quoi. Mais voilà, très puissant, quoi.
Mais c'est un peu frustrant, effectivement. On a des mois déjà en termes de matériel, d'objets, hein, d'outils de travail. Il faut attendre que ça arrive dans le grand public. Tu vois, par exemple, l'Oculus, t'en as un, mais l'Oculus, il y a mieux maintenant, tu vois, largement mieux. Donc, on est déjà, faut attendre déjà de pouvoir se payer le matériel. Ensuite, les ingénieurs qui vont avec. Tu les as pas non plus, quoi.
Après, il y a une course aussi, parce que dès que le matériel est libre, il y a une course au grand public, il y a une course en fait à celui qui va produire en fait pas le premier, parce que tout le monde produit en même temps, mais je pense que c'est pas nouveau comme sentiment, quoi. Je pense que aussi que tu montrais des installations lumineuses, tu sais, des années 60,
quoi, c'est néon.
Oui, un néon,
Dame Flavine,
oui, Grossman aussi,
mais voilà, explosion, un moment où la lumière, explosion comme ça, il y a cette course là, tu vois, frénétique.
Mais... c'est drôle parce que moi j'ai mon frère, il fait du design graphique avec un studio A4, moi tu as travaillé avec eux, ils ont fait une installation néon une fois, et c'était mis en relation avec le spécialiste du néon en France qui travaille pour James Turrell, qui travaille pour d'autres artistes français avec le néon. Et c'est compliqué pour lui parce que ce qu'il va développer techniquement pour un artiste, il n'a pas le droit de s'en servir pour un autre artiste.
Le copyright.
Exactement. Parce que l'outil, si jamais il trouve un bidouillage qui est pour une installation, il n'a pas le droit de s'en resservir. Il doit garder le secret en fait, ou il ne doit pas dire que tiens, mais j'ai une solution pour ça, j'ai déjà utilisé pour l'autre artiste, tu vois. Et finalement, c'est pas l'artiste qui trouve la solution technique.
Oui,
Et donc, je pense que l'artiste a une idée.
Ouais.
mais c'est lui qui est le spécialiste du néon. Il a 5 ans, il a côté de chez A4. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est dingue.
Ouais. Et pour les résidences, est-ce qu'il y a un budget
Alors, ça dépend. Ouais.
Ça dépend des résidences. Imagine,
ça dépend des résidences.
Bah, je pense que Klaus, tu fais comme moi. Moi, je prends pas de résidence qui donne pas de budget.
Hein. Oui, oui, voilà.
Ça non, parce qu'en fait, puis ça veut dire que tu quittes quand même ton appartement parisien,
ouais.
Qu'il faut au moment le loyer, il faut le payer, quoi, ou les charges, ou je sais pas quoi. Et donc en fait il y a une plateforme qui est pas mal pour ça qui s'appelle transartiste.org. Donc là t'as toute la database, les résidences, donc tu peux trouver ta résidence. Mais je trouve qu'à la fois il est bien parce qu'il compile beaucoup d'informations et en même temps il faut vraiment chercher beaucoup.
Ouais.
Là t'as donc le pays
parce qu'il y a des gens aussi qu'il faut payer pour participer.
Ouais, il y en a de plus en plus. Ouais. Et surtout les Scandinaves. Surtout les résidences scandinaves.
Ouais.
Tu dois payer à chaque fois en fait. C'est absurde. Tu quittes chez toi ou déjà bon t'essaies de que économiquement tu t'en sortes. Si en plus tu pars à l'étranger pour payer un atelier.
Ouais.
Moi là j'avais gagné une résidence au pôle Nord sur un bateau. Je devais payer 7000 euros pour 18 jours. Je savais qu'il fallait payer. Et j'ai essayé de ralentir le fait de payer. Je me dis, bon, j'ai trouvé des sponsors, puis j'ai pas eu le temps de chercher. Donc j'ai dit, ben voilà, je peux pas la faire quoi. Mais c'est une résidence nord-américaine, américaine, tu vois. Mais je pense qu'ils ont l'habitude de fonctionner avec des mécènes, avec des fondations.
Ouais,
et toi, t'es là, t'es en France. Et faut que tu trouves 7000 euros, c'était le départ. Parce qu'après, il faut payer la combinaison, les billets d'avion.
Bah oui.
Et puis le projet que tu veux faire là-bas, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de catalogue. Donc il faut que tout est amené. Là-bas, c'était que la recherche. Tu vas là-bas pour juste appréhender le paysage, photos, faire des photos, faire un film. Mais t'es tout seul. Moi, je voulais faire des films un peu expérimentaux, performance. J'aurais été tout seul. Donc il fallait que je m'achète un drone. Avec la fonction Follow Me, pour que le drone, il me suit, voilà, tu le jettes, il me suit, et puis je fais des trucs, tu vois, parce que j'ai pas d'équipe.
J'ai quelqu'un qui l'a, si tu veux.
Mais tu vois, la batterie, c'est un quart d'heure, donc ça veut dire que tu devais faire des.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Et puis avec le froid, je sais même pas combien c'est 10 minutes, ouais. 10 minutes, ouais. Tu vois.
Mais oui, j'ai vu ça, là, j'ai vu une résidence, là, c'était où, là, sur une île française.
Les Kerguelen.
Ouais,
c'est Kerguelen. Et je l'ai tenté, ça là aussi. Ouais.
T'as tenté.
Moi aussi.
Mais du coup, il demande.
Tu l'as tenté. Ouais.
Ouais, mais du coup, il demande d'avoir une galerie qui va exposer après ton travail. Je dis là, mais en fait, c'est qu'on fait tout le travail, quoi, tu vois. C'est quoi le
Ils ont pris Tixador il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Laurent Tixador, qui est un peu sur le même champ, voilà.
C'est qu'il y a un chorégraphe là.
Non, Tixador, c'est un qui fait des expériences d'enfermement ou de. Bah, comme Point Cheval en ce moment au Plein Tokyo, je sais pas si tu vois.
C'est là, Pierre.
Ouais, ils travaillent ensemble souvent.
Okay.
Enfin, on regarde sur cette résidence, sur cette plateforme, hein, t'as toutes les résidences.
Ouais,
mais t'as quel âge, Vincent, toi, maintenant?
31.
Il peut faire encore les pépinières, hein. C'est 35 ans, je crois, non?
Pépinières, il y a même 40 et quelques.
Ah ouais.
Il y a les artistes, ouais. Coco, Matt Coco.
Ouais. Mais tu regardes Art for EU. T'as envoyé le dossier que demandait Patrice, là, l'attestation?
Je
ça me gonfle, en fait, non? Non, mais ça va au bout d'un moment, quoi.
Donc, il faut que j'appelle les jeunes. Ouais. Ouais.
Donc, pépinière européenne, c'est comme ça qu'on. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai démarré après l'école. Hein.
Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ouais. C'est Art for EU.net.
Il est
20h20. Ah oui, il est
20h20,
ouais. Tu vois, tu regardes ça de toute façon. C'est, en général, c'est jusqu'à 35 ans, mais bon, pas sûr. Ils sont très spectacles vivants, hein, quand même. Patrice est très spectacle vivant, hein,
ouais.
Le directeur.
Ah,
c'est Carmen, mais oui.
La
vache. Ah bah,
c'est
mon truc ça. Les écrans là, les deux trucs avec des personnages collés au. Là, j'ai une référence, enfin, je t'envoie pour la vidéo là où tu slides entre deux vidéos différentes.
Ah ouais
là. J'ai mon prof qui est, je le connais mais. Louis Touril.
Bah oui, Louis, bien sûr.
Mais tu vois, il a travaillé pour Arte là, pour il a fait un site internet à Arte.
Comment ça va?
Bonjour. Et en fait, tu slides à droite, il y a une ligne comme ça d'horizon.
Ouais.
Et en fait, il y a une vidéo sur la totalité. Et je crois quand tu slides vers la gauche, un trait, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Et du coup, ça lance une vidéo en fait, en fonction si tu vas à droite ou à gauche, ah, ouais. Ça change l'histoire.
Non, il y a très
longtemps. Ah non, c'est pas Loïc Hurlou, je comprends. C'est un autre prof. C'est un autre prof que tu connais pas de Toulouse.
Ouais.
Ah oui, j'avais compris. Sylvain Barin, il s'appelle.
Non, ça je connais.
Mais je te montrerai cette vidéo du coup parce que c'est Arte qui l'avait sélectionné il y a très longtemps et c'était un peu il me disait c'était les premières œuvres numériques artistiques, tu vois, considérées comme
ouais,
première.
Ouais.
Absolument pas première, mais
en tout cas, oui, dans ce
dans le
ouais.